Cube Radio. Minutieusement informé, technologiquement outillé, conscientisé aux problématiques de son époque. Philippe-Vincent Foisy. Il expose tous les côtés des affaires publiques. Santé, économie, culture, politique. Peu importe les enjeux, il s'intéresse à tout. Philippe-Vincent Foisy. Cube Radio.
Cube Radio. Jeudi 26 mai. Bienvenue à Cube Radio, j'espère que vous allez bien ce matin. Une journée un peu venteuse aujourd'hui avec des possibilités d'averses durant la journée. Maximum de 24, 60% de possibilités d'averses pendant la journée. Avec tout ce beau vent-là, partiellement nuageux ce soir et cette nuit. Demain aussi, il pourrait y avoir des averses le matin et risque d'orage en après-midi. Je regarde les prochains jours, la semaine prochaine, du 30... du 31 qui est attendu mercredi prochain. Alors, profitez de cette température un peu plus normale. Possiblement un début de canicule la semaine prochaine aussi qui pourrait revenir. Alexandre Morinville-Ouellet, bonjour.
Bon matin.
Ce matin, dans les journaux un peu partout, ce sont des unes vraiment, vraiment tristes qui brisent le cœur de voir les visages de ces enfants, de ces 19 victimes, enfants, de ces deux professeurs qui sont tombés sous les balles au Texas. On a une collègue du Journal de Montréal qui est là-bas. Qui est là-bas et qui a recueilli des témoignages, qui fait le portrait aussi de ce tireur. On en apprend davantage dans les médias américains, notamment le fait qu'il avait été clair sur les réseaux sociaux qu'il avait annoncé à une adolescente allemande qui venait de tirer sa grand-mère, que 4 jours avant la fusillade, il exhibait des armes à feu sur les réseaux sociaux, que c'était un jeune solitaire, victime d'intimidation avec une vie de famille difficile. Et encore une fois, on se demande comment ça se fait qu'il a pu avoir accès aussi rapidement à des armes à feu alors qu'il ne pouvait même pas se procurer de l'alcool. Donc, sincèrement, grosse question là-dessus. Remise en question, par contre, que les élus républicains ne veulent pas faire, mais pas du tout. Hier, ils ont été assez rapides pour dire non, c'est un enjeu de santé mentale, c'est un enjeu de santé mentale. Mais dans le même point de presse, le même gouverneur du Texas disait, ben en fait, il n'y a rien qui démontre que ce jeune-là avait un problème de santé mentale, mais aucun ne veut dire qu'il y a un problème d'armes à feu aux États-Unis. Sincèrement, là, quand on regarde ça, on se demande... pourquoi il n'y en aura pas d'autres? Qu'est-ce qui va être fait là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochains jours pour éviter d'autres fusillades de la sorte? Très peu d'optimisme de mon côté. Sinon, du côté de Montréal, on a aussi parlé de la violence par arme à feu. La mairesse Valérie Plante qui se dit exaspérée des actes de violence qui se produisent dans la métropole. Elle a demandé au gouvernement fédéral de légiférer pour interdire les armes de poing. Donc, sortie hier en point de presse. Toujours dans la politique fédérale, le gouvernement fédéral, lui... n'a pas commenté ça, a plutôt préféré hier faire un point de presse avec le ministre de la Justice pour dire qu'il allait contester en Cour suprême la loi 21. Le ministre de la Justice, David Lametti, a aussi mis plusieurs doutes, plusieurs préoccupations en ce qui a trait à la loi 96 qui a été adoptée sur la réforme de la loi 101. D'ailleurs, hier au Parti conservateur, on en a pas mal parlé de ces deux lois québécoises. C'était le seul débat en français. Ça avait lieu à Laval, au Québec. Et le candidat Pierre Poilievre a changé son fusil d'épaule sur la loi 21 après avoir dit ici même en entrevue à Cube qu'il ne toucherait pas à la loi 21, qu'il ne contesterait pas cette loi-là devant les tribunaux, eh bien, finalement, il a changé et il a dit que s'il devenait premier ministre, son gouvernement participerait aux contestations en Cour suprême. D'ailleurs, tout à l'heure à l'émission, à 7h20, on devrait avoir le candidat Patrick Brown, vous allez voir. Son français est quand même correct. Troisième, disons, en classement, là, si on regarde le journal au niveau de son français. Hâte de l'entendre, justement, sur la loi 21, sur Pierre Poilievre et autres. D'ailleurs, on a beaucoup parlé des camionneurs, encore une fois, lors de ce débat conservateur. Et Alex, tu nous apprends que Tamara Litch, qui était l'une des organisatrices du convoi, pourra retourner en Ontario. Elle sera libre.
Oui, entre autres choses, là, parce qu'elle peut demeurer en liberté hier. Là, c'est ce que le juge Kevin Phillips a statué là, hier. Parce que depuis un bout, là, depuis qu'elle avait été arrêtée, on tentait tentait là de faire valoir que elle devait peut-être retourner derrière les barreaux selon la couronne, qu'elle n'aurait toujours pas le droit d'aller en Ontario, mais finalement elles n'ont pas eu gain de cause. Elle doit tout de même s'abstenir, l'entendant, la suite de son procès, d'utiliser ses réseaux sociaux et de les consulter. Par contre, un outil qui a été beaucoup utilisé pendant les manifestations de camionneurs, le Convoi de la liberté, pour parler à la base militante. L'objectif du tribunal, on le rappelait, là, n'était pas de faire la police de la pensée, de pas venir juger les opinions politiques de quelqu'un, mais plutôt de gérer la manifestation pour pas que celle-ci reprenne, pour pas que cette problématique-là revienne. Et donc, il n'y a plus de raison d'interdire à Mme Litch de ne pas aller en Ontario. Elle fait face encore quand même à plusieurs chefs d'accusation, méfaits, avoir conseillé à autrui de commettre un méfait, intimidation, incitation à l'intimidation, et on en passe.
Sinon, les pannes de courant font toujours rage. Il y a seulement 90 % des clients qui ont retrouvé le courant. Je dis seulement parce que je pense aux 10 % à peu près 50 000 qui n'en a toujours pas en ce moment. Ça pourrait s'étirer. Ça pourrait aller jusqu'à samedi. Hier, Mme Brochu, la PDG d'Hydro-Québec, était sur le terrain pour constater l'ampleur des travaux à effectuer. Il y a de la job, il y a du travail à faire. Patience, soyez prudents aussi. Elle disait, c'est pas le temps, si vous avez des fils à terre, d'essayer de toucher à ces fils-là, de les gérer. Attendez que les professionnels d'Hydro-Québec se rendent sur le terrain. Mais patience, on s'entend que c'est long, là, ça va faire une semaine. Puis quand elle dit que c'est la pire crise depuis le verglas, on la comprend quand on regarde les chiffres actuels. Sinon, à Politique québécoise, l'aide médicale à mourir, il y a un projet de loi finalement qui a été déposé par le ministre de la Santé. Certains, il ne reste plus beaucoup de semaines d'ici la fin de la session. Par contre, on pouvait espérer qu'il y avait consensus. On se disait, on a tellement travaillé, on a tellement consulté que le projet de loi devrait être adopté rapidement. Projet de loi qui vise à enlever le critère de fin de vie, comme le demandait la Cour pour demander l'aide médicale à mourir. Ça va plus loin, par contre, et ça va notamment toucher les gens qui sont atteints d'handicap moteur, qui vont pouvoir demander ces gens-là qui ont un handicap neuromoteur, l'aide médicale à mourir. Ça en a surpris certains, notamment Véronique Yvon, qui dit que c'est un peu un lapin sorti d'un chapeau parce que ce n'était pas dans les consultations en amont. Sinon, dans le journal, on parle du déclin du français, que le Québec devrait rapatrier des pouvoirs du fédéral pour l'immigration temporaire, notamment, qui est la porte d'entrée maintenant pour les immigrants permanents, selon des experts qui ont été embauchés par le gouvernement Legault. On recommande aussi d'augmenter le seuil d'immigrants pour atteindre à peu près 58 000 nouveaux immigrants par année. On va parler des GMF un peu plus tard à l'émission. Ça a l'air que c'est un échec, que ça ne fonctionne pas. Nos jeunes sont plus anxieux aussi, selon un sondage. La pandémie a fait monter d'un cran leur niveau d'anxiété, notamment quant à leur avenir professionnel. Il y a près de la moitié qui sont inquiets quant à leur choix de carrière. Il y a à peu près 1000 jeunes là, de Québécois d'âgés de 14 à 30 ans qui ont été interviewés. Puis il n'y en a pas beaucoup qui disent qui savent ce qui va se passer pour la suite. Il y en a 44 % qui se disent soit assez ou très anxieux par rapport à leur choix de carrière. Sinon, Alex, il y a un réseau de méthamphétamine qui a été démantelé, puis on parle d'un réseau costaud.
Oui, tout un réseau. Là, c'est une enquête de 9 mois du SPVM qui a abouti là, hier matin, très, très tôt. Une série de 26 perquisitions à la fois à la Montréal, Laval, en Montérégie puis dans les Laurentides. Puis c'est un réseau majeur de méthamphétamine qui a été démantelé. Plus de 6,5 millions de comprimés qui ont été saisis. Tout ça, c'est une valeur d'à peu près 32,5 millions de dollars. Et ça, c'est ce qui a été saisi jusqu'ici. Puis c'est un réseau très élaboré, des produits chimiques qui étaient cachés dans des entrepôts. Il y avait des cubes, là, des camions cubes qui se promenaient avec du matériel à l'intérieur pour permettre de faire les comprimés. On dit que les individus qui ont été arrêtés également sont reliés au réseau de motards criminalisés du Québec. Outre ça, il y avait également 21 armes à feu, 500 kg de poudre de méthamphétamine, 6 presses à fabrication de comprimés et plus de 300 000 $ en argent comptant qui ont été saisis. Donc c'est un gros, gros réseau là, qui est démantelé maintenant ici au Québec.
Sinon, à Laval, ce combattant d'arts martiaux mixtes qui disait avoir fait de la légitime défense, finalement, il semble que cette excuse-là ou cette défense-là ne fonctionnera pas là, pour le meurtre qu'il aurait commis.
Ouais, c'est une histoire de fou là, depuis mardi matin où on a appris cette histoire. Là. Ça s'est passé, là, pour le petit rappel, dans la nuit de lundi à mardi. 5 individus qui se sont infiltrés dans une maison d'un quartier tranquille à Laval. Semble-t-il, selon la première version de l'histoire, là, il aurait infiltré donc la maison d'Eduardo Larenas, qui est un ancien combattant d'arts martiaux mixtes, qui a même déjà fait un match dans la fameuse ligue, la UFC. Une véritable armoire à glace, selon les photos qu'on voyait, et aurait séquestré l'homme et sa conjointe pendant plus de 6 heures afin d'obtenir, on disait au départ, un héritage qu'il aurait reçu. Puis, ce serait défait de ses liens, aurait poignardé l'un des hommes et tout le monde aurait pu la fuite et l'événement se serait conclu comme ça, ce qui avait l'apparence à l'origine de légitime défense. Mais là, semble-t-il que la première version qui avait été expliquée, là, cette histoire-là, expliquée par le couple, mais n'aurait pas tenu à l'enquête des enquêteurs de la Sûreté du Québec et donc sont accusés maintenant de meurtre au deuxième degré pour M. Larenas et de complicité après le fait pour Gladys Rosanna Lopez, sa conjointe, tout ça contre un jeune homme de 17 ans qui a été décédé poignardé. Donc évidemment, on risque d'avoir plus de détails sur cette histoire-là et tout le contexte qui l'entoure dans le futur, mais c'est une saga là, qui continue d'avoir des rebondissements.
Puis en terminant, il y avait du hockey et du beau hockey hier.
Il y avait un match qui se jouait et les Blues de Saint-Louis se sont accrochés à la vie. Ont gagné 5-4 en prolongation contre l'Avalanche dans un match de fou. L'Avalanche menait 3-0 en fin de deuxième période. Il y a une remontée 3-3 qui s'est faite. Après ça, il reste moins de 3 minutes à faire. Nathan MacKinnon, qui a déjà 2 buts, la super vedette, a fait un but d'anthologie, traversé seul d'un bout à l'autre de la glace, fait une feinte, un but épouvantable. Mais à moins d'une minute de la fin, les Blues ont réégalisé puis sont allés la chercher en prolongation finalement. Donc tout un match de hockey, si vous avez l'occasion de réécouter ça, c'était vraiment spectaculaire.
Alex, bonne journée.
Salut.
Depuis le début, l'électrocardiogramme n'a pas bougé.
Dominique Vallière.
Ça devient pas mal une condition sine qua non.
S'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois.
Yasmine Abdel-Fadel.
Ça serait tellement catastrophique.
La rencontre.
S'il va, il va se faire soincer.
C'est difficile de se battre contre des chocs qui arrivent dans la boîte à mal.
Quand l'idéologie rencontre la réalité, c'est souvent la réalité qui gagne.
C'est pas comme ça qu'on tisse des liens avec les institutions.
Puis le temps file rapidement. Là.
La rencontre Vallière-Abdel-Fadel.
Yasmine, Dominique, bonjour à vous deux.
Allô, bonjour. Allô.
Alors, un beau petit débat en français hier au Parti conservateur. Il y a peut-être l'un de ceux qui était sur scène qui deviendra le prochain premier ministre. Juste pour se mettre en bouche ce débat-là, réécoutons de certains de ces beaux moments, notamment sur la sécurité publique, la loi et l'ordre.
Avouons que c'est un peu ironique d'entendre M. Poilievre faire la morale sur la loi et l'ordre, lui qui a soutenu un blocus illégal à Ottawa alors qu'il est législateur.
Je me souviens de la commission Charbonneau. OK? Je me souviens. Et les Québécois se souviennent aussi. Les camionneurs n'ont aucune leçon à prendre de vous par rapport à loi et l'ordre.
Bon, ça a brassé. Yasmine, qu'est-ce que tu en as pensé?
C'est tellement le fun. Ben, en fait, ce qui était intéressant, c'était d'entendre Jean Charest parler, Pierre Poilievre parler, Patrick Brown essayer de parler, puis voir l'autre lire, essayer de dire, OK, quelle phrase correspond à quel carton j'avais, et quelle déclaration je peux lire rapidement. Ça, c'est plate, les déclarations des autres, mais c'est sûr que le débat était vraiment très épicé.
Est-ce que, Dominique, est-ce que Jean Charest a gagné?
Oui, bien sûr. Je pense que c'était assez clair qu'il y en avait deux qui pouvaient gagner, lui et M. Poilievre. La salle était assez également divisée. Je pense avec un avantage.
On l'a entendu, M. Charest s'est pas trop fait huer.
Exactement, comparativement aux deux débats précédents. Mais oui, parce que il y avait quelque chose que M. Poilievre n'avait pas, c'est-à-dire un chien d'attaque. Qui était en mesure de juste toujours être dans les mollets de M. Poilievre, puis de dire « mais vous ». Donc oui, pour reprendre un peu ce que Yasmine disait, quand on écoutait le débat hier, c'était débat, attaque, déclaration. Donc c'est sûr que c'était comme en deux temps. Hein, parce que le véritable échange, puis ça donnait bien, parce que les deux principaux protagonistes étaient ceux qui parlaient le mieux le français, donc on pouvait voir qu'il y avait vraiment une différence de où ils voulaient amener le Parti conservateur, mais c'était très difficile pour les candidats qui n'étaient pas capables de se mettre en valeur.
Puis Yasmine, on a quand même eu une surprise hier de Pierre Poilievre qui nous a annoncé qu'il allait finalement soutenir la contestation contre la loi 21 devant la Cour suprême. Là, ça, c'est quand même tout un changement de position pour M. Poilievre.
Ben c'est vraiment un 180 degrés. Là. Lui, il disait, puis je me rappelle, il était à l'émission Le Bilan avec Emmanuel Latraverse il y a quelques semaines.
Ah, ici aussi,
c'est vrai qu'ici aussi, il disait, c'est une mauvaise loi, je ne suis pas d'accord avec cette loi, mais je n'osais pas prendre part à la contestation à la Cour suprême. Et hier, 180 degrés, il a dit, ben non, finalement, je vois que le fédéral, lui, compte intervenir et je ne compte pas défaire cette décision si je suis portée au pouvoir. Ben, ça, en fait, ça a donné raison à ses adversaires qui disaient qu'ils parlaient des deux côtés de la bouche, dépendamment avec qui ils parlaient. Est-ce que c'était en français, est-ce que c'était en anglais, est-ce que c'était dans le reste du Canada, est-ce que c'était au Québec? Puis hier, il était obligé d'être un peu plus cohérent. Et d'ailleurs, même pour la question de l'avortement, il a fini par dire mot pour mot qu'il est pro-choix. Il n'avait jamais dit « je suis pro-choix », il avait toujours dit « je suis pour la liberté de choisir », ce qui ne veut pas dire la même chose quand on parle d'avortement. Hier encore, il a finalement pris une décision un peu plus claire. C'est sûr qu'il va être attaqué sur ce flip-flop-là dans les prochaines semaines. Monsieur Poilievre, il a connu quand même une difficile soirée hier.
Ouais. Est-ce qu'il s'en sort trop écorché? Je veux dire, il reste encore quoi, une semaine à peu près pour vendre des cartes de membres, puis après ça, c'est peut-être ce qui me fascine le plus, c'est qu'on est en campagne tout l'été, au début de l'automne aussi, il n'y aura plus de débat, on n'en parlera plus. M. Poilievre s'en sort quand même bien, il y a l'avantage du temps pour lui, là.
Il y a l'avantage du temps, mais en même temps, on sent que les choses changent un peu. Hier, je voyais un sondage Abacus où la question qui était posée, c'était quel est le candidat ou la candidate, parce qu'il y a Mme Lewis, qui correspond le mieux à vos valeurs et que vous souhaitez voir gagner. Et l'avance de M. Poilievre, quand on a posé la même question au tout début du mois, le 6 mai, était très significative et auprès des membres. Et alors qu'il était derrière M. Charest quand on parlait à la population canadienne en général, et là cette avance-là a rétréci auprès des membres et s'est accentué auprès de la population générale. C'est une avance de 6 points que M. Charest a sur M. Poilievre, contrairement à 3 points au début du mois. Donc on sent qu'il y a un changement, on sent qu'il y a un renversement de tendance, et je pense que la campagne de M. Charest, ou appelons-la le ticket Charest-Brown, parce que hier, il y avait des moments où est-ce que c'était assez évident, M. Charest parlait puis M. Brown le regardait avec des grands yeux puis applaudissait à la fin des phrases de M. Charest. C'était pas subtil, mettons, mais donc il y avait une campagne à deux temps. Premièrement, c'était élargir la tarte. Donc, oui, M. Poilievre est le favori des électeurs conservateurs ou des membres conservateurs au début de la course. Donc, changeons le membership conservateur. Puis ensuite, une fois que le membership va être fixé, donc le 3 juin, là, on va parler à tout ce beau monde-là puis dire, bon, OK, maintenant, quels sont les thèmes qui vous intéressent? Est-ce qu'on est en mesure, donc, de proposer des choses qui vont vous faire changer d'idée? Donc, c'est une campagne un peu en deux temps, mais j'ai l'impression que la première partie, donc élargir la tarte, augmenter le membership, a été réussie de la part de Jean Charest et Patrick.
Yasmine, je regardais hier le débat, je me disais, mettons que je suis un Québécois, pas très politisé, je pogne ça parce que j'écoute la télé d'habitude à cette heure-là, j'écoute la première heure ou même la première demi-heure seulement, là, puis là, la première question, c'est faites-nous rêver, là. Il y a Johnny McDonald qui a bâti un chemin de fer. Il y a Brian Mulroney qui a signé un accord de libre-échange. Vous, là, sur scène, quel sera votre héritage une fois que vous serez premier ministre? La première réponse, c'est Pierre Poilievre qui dit un pays où on sera pas obligé de vacciner les gens. Là, je me disais, OK, ouais, c'est ça. Les gens sont passés ailleurs dans la pandémie, mais eux, au Parti conservateur, c'est encore important. Ça vient encore. Mais il me semble que ça fait pas rêver, ça, le Canadien moyen, de dire tu seras pas obligé de te faire vacciner, là.
Ben, c'est la colère. Il mise sur la colère. C'est son leitmotiv, c'est sa campagne électorale, c'est son slogan, c'est tout. La colère, c'est important pour Pierre Poilievre parce que c'est cette colère-là qui peut le hisser au pouvoir. Et chaque occasion de s'exprimer, c'est une occasion pour lui d'allumer le feu. De souffler sur cette colère-là. Et c'est ce qu'il a fait hier. Malheureusement, il a montré qu'il avait plus une vision à court terme, là, tu sais, la vision très court-termiste où encore on est dans la pandémie, où on est encore en train de punir ceux qui nous ont fait faire des choses qu'on voulait pas il y a encore quelques mois, plutôt que dire dans 10, dans 15 ans, qu'est-ce que lui, il propose. C'est là où le potentiel de croissance des personnes qui pourraient potentiellement voter pour Pierre Poilievre demeure limité. Et ça va être son défi après le 3 juin. Comment pourra-t-il convaincre ces 400 000 nouveaux membres, là? Je sais pas combien il y en a que c'est lui-même qui a fait signer, mais le reste, comment il va les convaincre qu'il pourrait être un numéro 2 intéressant? Parce que c'est ça, finalement, la game. Pierre Poilievre, s'il n'arrive pas à les convaincre que c'est une option 2 dans le bulletin de vote qui peut être intéressante, ben la victoire s'éloigne. Parce que s'il n'est pas à plus de 50% dès le premier tour, c'est très difficile pour lui d'aller chercher la majorité après ça.
Ouais, même Leslie Lewis qui lui a dit cette phrase qui, je pense, va rester dans nos têtes. Écoutez dans les patates.
Il est dans le patate.
Ça va faire de la bonne pub, ça, pour les libéraux, Dominique. Là.
Ah oui, puis M. Charest l'a réutilisé une, puis deux, puis trois fois. Non, donc, c'est sûr qu'il était très content de ça. Et c'est le moment où est-ce que Mme Lewis a été la plus applaudie. Mais j'écoutais ça hier, puis je me disais, M. Poilievre ferait un sacré bon chef de l'opposition. Tu sais, quelqu'un pour mettre Justin Trudeau dans les câbles, puis tout ça. Un peu comme
gossé,
M. Mulcair faisait avec M. Harper. Il était vraiment capable de rentrer sous sa peau, puis de dire là, tu sais, aujourd'hui, tu passes pas une bonne journée. Mais à aucun moment durant le débat, je me suis dit, cet homme-là est capable de passer à l'étape supérieure et de devenir premier ministre, alors que Jean Charest, on n'a pas besoin de se poser la question. Il a été premier ministre. Donc, il a déjà ses habits-là.
On le sait peut-être qu'il n'est pas capable. Ah non, OK.
Peut-être que l'habit ne fait plus aussi bien qu'en 2012, là, mais il a déjà ce soute-là qui est dans son garde-robe et qui est capable de mettre et de dire, voyez, pour moi, c'est naturel.
Bon. Loi 21, on en a parlé un peu hier. Ils veulent tous contester cette loi-là, visiblement. Le gouvernement fédéral a annoncé qu'il allait le faire. Surprise quand même parce que on n'est pas rendu en Cour suprême, donc je suis pas surpris, moi, que le gouvernement le fasse, mais je suis surpris surtout, Yasmine, du moment où on a choisi de l'annoncer en disant « ben, ça va m'amener passer la Cour d'appel, puis ça va se rendre en Cour suprême, puis on sera là », plutôt que de dire « ben, on va attendre que ça se rende là, puis si ça se rend, on y sera comme on le faisait depuis le début, là ».
Je suis pas surprise, moi. Moi, je pense que c'est une stratégie. Et c'est une stratégie qui s'inscrit dans le contexte de l'adoption du projet de loi 96, ben oui. La nouvelle réforme de la loi 101. Ce que ça veut lancer à certains groupes communautaires et à certains groupes qui contestent la loi 96, c'est « guys, si vous y allez, si vous contestez cette loi-là, et si cette loi-là arrive à 96, on va faire comme on vient d'annoncer à ce qu'on va faire pour 21. » Donc go, tacitement, vous avez notre appui une fois que ça va arriver en Cour suprême. C'est ça le message en filigrane qu'il y avait hier au point de presse de David Lametti. Il n'y avait aucune raison de parler de la contestation de la loi 21 à part l'adoption du projet de loi 96 qui a eu lieu 24 heures plus tôt. Mais 21, moi je suis pas surprise là. Le Justin Trudeau s'est toujours laissé la porte durant les débats de la dernière campagne électorale. Il y avait Erin O'Toole qui avait fermé cette porte là puis qui a dit que lui il allait pas contester et Justin Trudeau s'était inscrit en faux puis il a dit non, moi je me laisse la porte, je ne peux pas vous dire que j'exclus cette option de mon éventail d'options. Il y a quand même une tradition de protection des minorités et qu'on le veuille ou pas, une responsabilité de défense de la Charte des droits et libertés canadiennes et de la Constitution qui incombe à quiconque occupe le poste de premier ministre du Canada.
Dominique, est-ce que c'est un manque de respect, comme le dit François Legault?
Écoute, bon, premièrement, pour François Legault, c'est du pain béni. Parce que au Québec, 21, c'était fait. Les points que la CAQ avait à gagner par rapport à 21 étaient gagnés. C'était avant la pandémie, puis personne pensait à ça. Et là, tout d'un coup, ça revient. Puis tu sais, François Legault, il marchait hier, puis il a trouvé 20 piastres à terre. Puis, il est content. Ensuite, pour le timing, ben évidemment, il y avait le débat conservateur. Je pense que c'était pas... Tu sais, ça devait aussi faire partie du calcul. C'est-à-dire que oui, il y avait le momentum avec 96, que Yasmine a dit, il y avait un message qu'on voulait envoyer aux gens qui sont contre 96, qui sont toujours contre 21, mais il y avait le débat conservateur. Puis effectivement, ça a fait que le favori de la course, encore jusqu'à aujourd'hui, a dû ajuster, changer sa position, ce qui est sûr que bon, ça a fait le bonheur des stratèges conservateurs qui sont contre M. Poilievre, mais ça fait le bonheur des stratèges libéraux aussi, parce que ça précise la pensée de l'entièreté du parti. Donc, il y avait tout ça, mais il y a un autre parti politique qui a dû dire « ouf », hier, dont on n'a pas parlé depuis le début, c'est le PQ. Parce que quand les libéraux fédéraux ont dit on pourrait amener 96 en cours, en fait, on pourrait supporter les
participer,
gens qui amènent 96
ouais,
en cours,
ça.
Participer, le PQ était mal pris parce que comme ils ont voté contre 96, là, c'est quoi? Ils vont dire c'est une mauvaise loi, mais le gouvernement du Québec avait raison de l'adopter, donc nous, on va chialer, puis bon. Mais 21, ils ont voté avec le gouvernement. OK? Donc, ils peuvent dire, eux aussi, parce que là, c'est la CAQ contre tout le monde pour que, dans 96. Je suis pas sûr que QS va être en avant de la parade pour dire ce qui se passe en Cour suprême, c'est pas le fun, là, même si on votait pas. Mais dans 21, le PQ est avec le gouvernement. Donc, ça leur donne la possibilité de dire méchant fédéral, de retomber à leur fonds de commerce habituel et d'être dans la même parade que le gouvernement. Ce que la contestation contre 96 leur permettait de faire.
Mais la vérité, c'est que le gouvernement aurait pu éviter tout ça puis éviter l'invitation du fédéral dans la Cour suprême s'il voulait réellement s'assurer du test des tribunaux, puis il avait fait un renvoi de son projet de loi pour que les tribunaux puissent se prononcer a priori sur le projet de loi et son applicabilité, sa constitutionnalité, même en utilisant la clause dérogatoire. Ils ont fait le choix de ne pas entendre les tribunaux sur cette question-là, puis de les laisser trancher a posteriori, après l'adoption, après la contestation. Et j'imagine que, secrètement, ils espéraient une intervention du fédéral comme ça.
Ouais. En même temps, c'est une intervention, il faut quand même comprendre, c'est pas le fédéral qui conteste cette loi-là. C'est pas le « vous nous entendez pas en ce moment ». Bon. Ben, regardez, ils m'entendent plus, je sais pas pourquoi. On a un petit enjeu de son, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est bientôt la fin. Alors, je vais vous dire au revoir, Dominique, Yasmine, puis on se reparle demain. Espérons que vous soyez... Ah, moi, je vous entends. Bon, salut, à demain. Bye.
Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca. Philippe Vincent Foisy. Une nouvelle perspective de l'information.
Cube Radio.
Il n'a pas peur de mettre son poing sur la table. Philippe Vincent Foisy. Pour une information juste et véridique.
Cube Radio.
Cube Radio. Cube Radio.
Cube Radio. En direct à LCN.
6h30, moment d'aller joindre Philippe Vincent Foisy dans les studios de Cube. Bonjour Philippe Vincent.
Salut Marianne.
On a écouté ce débat à la chefferie du Parti conservateur. Dernier débat en français. Jean Charest qui avait, bon, pour lui la langue de un, avait la foule, quoi qu'il semblait y avoir aussi des partisans de Pierre Poilievre, mais disons qu'on sentait une foule davantage favorable à Jean Charest, ce qui n'avait pas été du tout le cas lors des autres débats. Mais maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il a marqué assez de points?
C'est compliqué ça de dire est-ce qu'il a marqué suffisamment de points, mais ce qui est clair, c'est qu'il a gagné ce débat-là. Il en est ressorti vainqueur, il a montré que oui, la langue, il la maîtrisait, mais aussi que son expérience politique n'était pas qu'un boulet. Ça pouvait aussi lui permettre de dire, ben moi je l'ai fait, ça fonctionne. Sous ça, regardez, je comprends comment je le fais, je sais comment être capable de le faire et je serai un bon premier ministre. Alors que Pierre Poilievre, hier, nous a surtout montré qu'il serait un excellent chef de l'opposition. Monsieur Charest a à la fois attaqué, mais aussi proposé. Il était dans l'un un peu plus concret, dans ce qui était peut-être un petit peu plus compréhensible pour les électeurs généraux, pas juste les conservateurs qui regardaient ça et qui disaient « Ah ben, je vois à peu près où il veut s'en aller », alors que Pierre Poilievre, quand on lui a posé la première question du débat, si vous aviez à laisser un héritage comme premier ministre, comme le chemin de fer de Johnny McDonald ou le libre-échange de Brian Mulroney, vous, ce serait quoi? Il a dit « Ben, ce sera un pays libre où les gens n'auront pas l'obligation de se faire vacciner ». Je me disais, hey, on commence le débat là-dessus. Si on n'a pas vraiment suivi ce qui se passe au Parti conservateur, on doit se dire, voyons donc dans quel parti je me trouve en ce moment. On est encore en train de parler de COVID, alors qu'il y a plein d'autres problèmes sur Terre, plein d'autres problèmes au Canada. Alors là-dessus, M. Poilievre a peut-être été faible. Il a été très bon, par contre, sur certaines attaques, notamment contre Jean Charest. On pourrait écouter un extrait, d'ailleurs, un échange entre M. Charest sur la loi et l'ordre des camionneurs et la réponse de Pierre Poilievre.
Avouons que c'est un peu ironique d'entendre M. Poilievre faire la morale sur la loi et l'ordre.
Lui qui a soutenu un blocus illégal.
Je me souviens de la commission Charbonneau. OK?
Et les Québécois se souviennent aussi. Les camionneurs n'ont aucune leçon à prendre de vous par rapport à loi et l'ordre. Se souviennent aussi. Les camionneurs n'ont aucune leçon à prendre de vous par rapport à la loi et l'ordre.
On le voit dans leur visage, à quel point.
Ils participaient beaucoup aussi.
Oui,
hein?
Oui, c'est ça, mais on voit dans le visage quand même des candidats qui étaient contents, qui étaient fiers des attaques, qui ont bien porté, qui ont bien rentré. Il faut quand même souligner aussi gros changement de position de la part de Pierre Poilievre sur la loi 21 sur la laïcité au Québec. Oui. Depuis le début, à mon micro, à LCN, les émissions au Québec, partout, il répétait qu'il ne contesterait pas la loi 21 devant les tribunaux. Hier, il a changé son fusil d'épaule, va participer à une contestation de la loi sur la laïcité. Pourquoi je dis que c'est un gros changement de position? Souvenez-vous, Pierre Paulus avait appuyé Pierre Poilievre justement parce que c'était le seul de ce parti-là qui n'allait pas contester la loi 21. C'était le seul de ce parti-là, alors que là, c'est clair, les conservateurs vont participer à cette contestation-là si jamais ils prenaient le pouvoir. Alors, gros, gros changement de position là-dessus.
Bien, parlons de la loi 21, possiblement loi 96 également. Ottawa qui est prêt à aller jusqu'à la Cour suprême. Et là, est-ce que ça va creuser encore davantage? Est-ce que c'est même une question, le fossé entre le fédéral et Québec? Et j'entendais Mathieu Bock-Côté qui parlait presque d'un Meach 2.
C'est un petit peu intense, là, on s'entend. Là. En ce moment, on le savait. On savait que le gouvernement fédéral allait le faire. Ce qui est surtout surprenant, c'est qu'on n'ait pas attendu que la Cour d'appel tranche. On a dit, bien, la Cour d'appel va trancher, ça va en Cour suprême, puis on sera là. Le message, au fond, du gouvernement fédéral, c'était surtout de dire aux minorités anglophones à Montréal qu'on va être là aussi pour 96, donc la défense de la langue française. C'était aussi d'envoyer le message au gouvernement québécois, regardez, là, on va arrêter de niaiser, on va vous le dire tout de suite, on sera là. Alors, s'il y a des contestations, allez de l'avant. Parler de ce malaise-là, d'utiliser la clause dérogatoire en amont plutôt qu'une fois que la Cour a tranché sur ce sujet-là. D'accord, ce malaise-là, il existe au Canada. Après ça, c'est pas vraiment une surprise. Puis de l'autre côté, quand François Legault dit que c'est un manque de respect, il faut quand même rappeler que les libéraux fédéraux sont majoritaires au Québec. Ils sont majoritaires au pays aussi, mais ils sont majoritaires au Québec. Et ils n'ont pas caché cette position-là. Donc là-dessus, oui, il va y avoir chicane. Oui, on va en profiter. Oui, pour François Legault, c'est quand même des munitions intéressantes pour la course pour la prochaine campagne électorale, de dire, regardez, ça nous prend un mandat fort. Les fédéraux, le gouvernement fédéral veut être là. Le gouvernement fédéral veut empiéter dans nos champs de compétences. Élisez davantage de députés caquistes si vous voulez être en mesure d'avoir ce rapport de force. Alors, on joue aujourd'hui les offensés, mais sincèrement, politiquement, c'est bien pour la CAQ aussi d'avoir cette petite bataille-là. Là.
Intéressant tout ça. Merci beaucoup.
Salut, Marianne.
Vincent. Bonne journée à toi.
Culture et société.
J'ai eu 30 ans en décembre et je ne sais plus pour qui me prendre. Je sais que tout ce qui monte va redescendre, comme tes cendres, comme tes cendres. Ma vie n'est plus tout à fait.
Anaïs!
Allô!
Les Franco qui vont rendre hommage à Karim Ouellet?
Hey, oui, on nous a annoncé les concerts gratuits. Donc, au total, les Francofolies, ce sera plus de 120 spectacles. C'est du 10 au 18 juin prochain. Mais je pense que tout le monde, chaque année, attend impatiemment ces gros concerts gratuits-là qui sont toujours extraordinaires. On s'entend que c'est vraiment, moi, dans mon été, il faut au moins que j'aille au Franco voir un gros show. Là. Donc là, on vient d'entendre Karim Ouellet et la pièce 30, justement. Donc, je pense, un des spectacle qui va faire le plus jaser. Donc, 5 mois après son décès, le 12 juin, on nous offrira le spectacle Bye 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 Karim. Donc, ce sera plusieurs de ses amis et sa sœur Sarah May. C'est elle vraiment qui a eu l'initiative, qui a invité plusieurs de leurs amis à se rendre sur scène. Donc, Ariane Moffat sera à la Claire Ensemble, qui ont collaboré à maintes reprises avec justement Karim Ouellet, Claude Bégin, Fanny Blum, La Bronze. Donc, sur scène, toutes les amis, toute la famille, je te dirais, proche de Karim Ouellet sera là pour lui rendre hommage. Donc, ça fait partie des gros concerts gratuits à ne pas manquer. Il y aura également Émile Bilodeau et ses invités. Donc, lui sera accompagné de plusieurs artistes issus de diverses communautés autochtones. Donc, ce sera le lundi 13 juin. Louis-Jean Cormier, ça fait longtemps, il me semble, qu'on ne l'a pas vu en spectacle, celui-là. Donc, Le ciel est au plancher. Ce sera le vendredi 17 juin avec une dizaine de musiciens. Et là, ceux qui trippent sur Loud, Larry Hodges. Donc, vraiment, là, une grosse soirée de rap Kev. Donc, ce sera le samedi 18 juin à ne pas manquer. Donc, allez faire un tour sur le site des Francofolies. C'est beau ce qui s'en vient, donc 10 au 18 juin prochain.
Et l'humoriste Philippe Bonne qui plaide coupable à une accusation d'alcool au volant.
Exactement. Donc, il y a, à la fin du mois de mars, en fait, ça avait fait jaser. Donc, c'est Philippe Bande qui était en tournée avec sa gang dans un restaurant. Il a pris quelques consommations et c'est quelqu'un qui a appelé la police disant Philippe Bande a pris le volant après avoir consommé de l'alcool. Et là, tout de suite, évidemment, lui a pris la parole sur les médias sociaux. Là, il s'est dit on va tout de suite aborder le sujet. Donc, il s'est fait arrêter. En fait, il y avait dans son sang 100 mg alors qu'on a le droit d'avoir 80 mg en termes d'alcool. Donc, il a dépassé de peu. Et là, lui a raconté que ça faisait plus de 1h30 qu'il avait cessé de boire, qu'il était persuadé qu'il était apte à conduire. Donc, il n'était pas sous en soi. Là, même les policiers avaient une conversation avec lui. Puis, il n'y avait pas l'air de quelqu'un, justement, en état d'ébriété. Mais dans son sang, il dépassait le taux d'alcoolémie acceptable pour conduire. Donc là, il a plaidé coupable hier. Donc, il va perdre son permis. Ce sera suspendu pendant un an. Il va payer une amende de 1 000 $. Et ce qu'il dit, c'est à partir de maintenant, je peux vous garantir que je vais avoir un chauffeur pour mes tournées et là, évidemment, pour la prochaine année. Donc, il s'est excusé disant c'est incroyable. Des fois, on a l'impression qu'on peut conduire et finalement, bon, on se rend compte que dans notre sang, il y en a encore de l'alcool. Donc, il faut vraiment faire attention.
Mise en garde pour tout le monde ici. Sinon, oui. Jeannette Bertrand, Luc Dionne qui ont reçu le prix de la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale.
Exactement. Donc, ça, on remet ça à des artistes, à des journalistes, à des comédiens, à des communicateurs hors pair qui ont dit que ce sont des personnalités remarquables. Effectivement, qui nous incitent à nous dépasser par leurs actions, leurs réflexions, leurs valeurs incarnées.
Jeannette Bertrand.
Jeannette, c'est pas du tout. J'ai dit Jeannette Renaud, Jeannette Bertrand, voilà, c'est exactement ça, cette femme-là. Donc, on dit qu'elle a marqué l'histoire du Québec par sa profonde empathie, sa réelle détermination à mieux comprendre l'humain et la femme, notamment. Bon, Luc Dionne, qui est le cerveau derrière District 31. Il y a aussi eu l'ancien député et ministre libéral provincial Benoît Pelletier, Guy Lafleur, Joyce Echaquan également ont reçu cet honneur-là à titre posthume, évidemment. Donc, ça a été un peu plus tôt cette semaine. Une belle soirée pour tous ces gens.
Et l'équipe de Denis Lévesque s'est fait plaisir avec un montage spécial.
Oh! Allez voir ça, c'est délicieux, OK? C'est sûr qu'en 10 ans télé, il y a des beaux moments, il y a des beaux bloopers. Et c'est sûr qu'avec une émission comme Denis Lévesque, c'est rarement un endroit où on peut rire. Mais entre les prises, on rit, tu comprends? C'est pas un plateau où c'est nécessairement lourd, même si parfois les sujets abordés l'étaient. C'est une belle vidéo qui a été réalisée par un collègue de Denis Lévesque avec qui il a travaillé pendant plus de 10 ans. Je te fais entendre un extrait, c'est du bonbon.
Le propriétaire du zoo de Falardeau est avec nous en compagnie des DBD, 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 la mère de Lot. Ses vies professionnelles et personnelles se sont souvent croisées au petit écran. Et là, ça fait plouf dans mon télésouffle. Et là, je sais plus ce que j'étais rendu. Ça a fait
écoute, c'est juste parfait. Moi, j'adore ça, les bloopers. Donc, c'est disponible sur notamment le site là, de TVA. Regardez ça ce matin avec un bon café. Ça va bien commencer votre journée.
Et Hubert Lenoir qui va être à Québec, Montréal et Rouen.
Oui, puis ce que j'aime, là, Hubert Lenoir, c'est pas la première fois qu'il fait ça, qu'il annonce des concerts en disant « contribution volontaire ». Il l'avait fait également aux États-Unis, en Californie, là, disant « écoutez, moi, je fais un spectacle, donnez-moi ce que ça vous tente et venez me voir ». Donc, c'est ce qu'il fait encore une fois. Ça a été annoncé sur les médias sociaux. Donc, 27 mai, Foufoune électrique. Ensuite, il sera au Dagobert à Québec. Ensuite, il sera présent notamment au Festival de musique émergente en Abitibi, qui est un des festivals extraordinaires. Il est là au moins une fois. Là, c'est vraiment les spectacles dans les églises, c'est de toute beauté. Donc, il y a plusieurs billets, évidemment, qui se sont envolés, tous ceux de contributions volontaires. Il en reste encore quelques de disponible. Donc, ça fait partie aussi des spectacles à voir dans les prochains mois.
Anaïs.
Philippe Vincent.
Une bonne journée.
Salut.
Cube Radio. Philippe Vincent Foisy. Un regard neuf sur l'actualité, une vision nouvelle des enjeux de la société.
Cube Radio.
Cube Radio. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. He's on his horse, powering through. The speed burst. What's to Kelly? Oh my goodness, what a goal from Nathan McKinnon!
Quel but, mon Dieu, dit le commentateur. Salut Jean-François.
Salut, mais c'est tout un but de Nathan McKinnon. Il a traversé la patinoire de bout en bout et déjoué
tout le monde avant de jouer le défenseur avec une feinte entre les jambes, puis après ça, de se la passer un ni plus ni moins entre les jambes pour de jouer le gardien. C'est un des grands buts des séries, un des beaux buts en tout cas là, des dernières années. Alors Nathan MacKinnon, on savait, c'est tout un joueur de hockey. Hier, nous en a mis plein la vue.
Et les Blues qui ont quand même gagné.
Ouais, ben c'est ça. Ça, c'est le moins bon côté. D'après moi, MacKinnon échangerait peut-être ce but-là pour une victoire de son équipe. Tu sais que la pire avance au hockey, c'est 3-0, hein?
Ah ouais?
Ouais, je sais pas pourquoi, mais c'est une avance qui est difficile.
Parce que tu t'assois sur ton steak.
Je pense que c'est ça. Même si t'as beau te le dire, ton corps, lui, relâche un peu.
T'as comme pas le temps de réveiller, puis là, c'est rendu 3-2, puis hop, hop, hop.
T'es un fin psychologue.
Ben, j'ai déjà fait du sport. J'ai déjà mené 3-0 et j'ai déjà gagné quand on se faisait battre 3-0.
Ouais, c'est ça.
Je me remets dans mes souvenirs.
C'est ce qui est arrivé hier à l'Avalanche. On le sait, l'Avalanche aurait pu éliminer les Blues. Donc, prennent les devants 3-0, là, tu te dis, hey, l'affaire est dans la poche. Et là, finalement, tranquillement, les Blues reviennent dans le match et réussissent à faire 3-3. Nathan MacKinnon redonne les devants à son équipe avec 2 minutes 30 à jouer. 4-3 Avalanche. On fait bon, mais c'est la fin pour les Blues. Et avec 56 secondes à jouer, Robert Thomas qui marque. Et le match s'en va en prolongation. C'était donc 4-4 à ce moment-là. Et en prolongation, c'est Tyler Bozak qui a marqué. Donc, victoire des Blues 5-4. Les Blues qui ne veulent pas mourir, on va dire ça comme ça. Là, le match s'en va la série s'en va du côté de Saint-Louis pour un sixième match. Et là, ben, les Blues à domicile, on ne sait jamais ce qui peut arriver. En même temps, dans les propos d'après-match hier, l'Avalanche qui avait balayé la première série a dit on peut pas toutes les gagner en 4 puis en 5. Il faut travailler fort, travailler dur dans les séries. C'est normal. Reste que quand t'es à 50 quelques secondes de mettre fin à la série, ça doit être fâchant en Moses aussi. Darcy Kemper, le gardien de l'Avalanche, a été moyen hier. J'ai regardé une bonne partie de la rencontre. Ça m'a laissé dire là, si jamais l'Avalanche et le Lightning se retrouvaient en finale de la Coupe Stanley, ce qui est un peu le scénario de rêve, on va donner évidemment l'avantage au Lightning à cause de Vasilevskiy devant le filet. Et puisqu'on est dans les séries de la Coupe Stanley, ben ce soir, ça se poursuit. Les Oilers contre les Flames. Je vous rappelle que la série est égale 2-2. On s'en va donc du côté de Calgary pour le cinquième match. Et 3-1, excusez-moi,
ouais,
c'est 3-1 pour les Oilers.
Je regarde
c'est
le tableau série. En ce moment, là, puis c'est 3-1 pour les Oilers.
Oui, 3-1 Oilers, excuse-moi. Et c'est l'autre série qui est égale 2-2, les Rangers contre les Hurricanes de la Caroline. On retourne en Caroline et pour l'instant, personne n'a gagné sur les glaces adverses, même que les Hurricanes, depuis le début des séries, ont gagné tous leurs matchs à domicile et ont perdu tous les matchs sur la route. Est-ce que ça va se poursuivre ce soir? Je vous en reparle demain.
Parlons du Rocket, qui a connu une belle soirée, qui a éliminé Rochester.
Ouais, puis eux autres aussi, c'est un match en prolongation à plus haut pointage que ce qu'on nous avait habitué depuis le début de cette série-là. Ça ne veut pas dire que Caden Primo n'a pas été bon. Il a réussi des arrêts clés quand même à des moments opportuns. De toute façon, lorsque le match va en 6 périodes, parce que ça s'est terminé en 3e période de prolongation, là, je pense que dans ce temps-là, on peut lever notre chapeau aux deux gardiens. Ça veut dire que pendant un bon bout en prolongation, ils n'ont rien donné. Et finalement, c'est Jean-Sébastien D qui a tranché le débat en 3e période de prolongation. Donc, on balaye Rochester du côté du Rocket. C'est une bonne nouvelle. En plus de ça, on va avoir un peu de temps pour se reposer puisqu'on ne connaît pas encore nos prochains adversaires. Évidemment, l'autre série n'est pas terminée. On sort de notre division. On se retrouve donc en finale de conférence de l'Est dans le carré d'As. Ben quand même, certain. C'est la première fois pour le Rocket. La dernière fois que le club école du Canadien s'est rendu aussi loin. Qui était devant le filet et qui menait cette équipe du côté du club école du Canadien?
On dirait que j'ai comme Patrick Roy en tête, mais je sais pas.
C'est Carey Price. Ah. T'es remonté un peu loin.
Je suis trop vieux.
Patrick Roy l'a fait aussi, la Coupe Calder avec Sherbrooke, on s'en souviendra. Mais Carey Price, c'était dans le temps où l'équipe était les Bulldogs d'Hamilton. Donc, on va suivre ça. Puis, je vous dis, le party est pogné du côté de Laval. Alors, si jamais ça vous intéresse, là, les billets vont sûrement se mettre en vente dans les prochaines heures.
Puis sinon, le CF Montréal qui a gagné son match.
Oui, CF Montréal qui commençait là, leur championnat canadien. On se souviendra que l'année passée, le CF a gagné le championnat canadien. On s'est rendu en CONCACAF. Et là, on repartait ça. Là. Ça, c'est parallèle à la saison. On affrontait le Forge FC de Hamilton, une équipe qui est dans une sous-classe là, du CF Montréal. Mais ça arrive des fois qu'on s'enfarge quand même. Ça a pas été... D'ailleurs, l'année passée, on s'était affrontés. Là. Les deux équipes s'étaient affrontées et ça s'est terminé en tir de barrage. Ça n'a pas été le cas hier. Le CF Montréal a fait une seule bouchée du Forge FC. Et c'est Sunusi Ibrahim qui a été le héros du match avec 3 buts. C'est rare au soccer, là, un tour du chapeau.
Parle-moi de basket.
Ben, c'était le premier match de l'Alliance de Montréal. Vous savez qu'on a maintenant une équipe ici à Montréal, l'Alliance de Montréal. Pardon?
Qui joue à Verdun.
Qui joue à Verdun. Mais là, c'était pas à Verdun hier. C'était pas le premier match à domicile, mais c'était le premier match de l'histoire. On jouait contre Hamilton aussi du côté de l'Alliance. Malheureusement, ça a été une défaite lors du premier match, mais une défaite honorable, 80 à 72. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il y a différents règlements. Là, je lisais ça ce matin, différents règlements, là, comme par exemple en fin de match, au lieu que ce soit interminable comme dans la NBA, tu sais, on veut évidemment essayer de se renouveler un peu, là. Ben, eux autres, avec 5 minutes à jouer, là, on prend le score. Fait que ça veut dire qu'hier, c'était 71 à quelque chose et on ajoute plus 9 à l'équipe qui mène. Fait que tu dois aller, la première équipe, dans le fond, à atteindre 80, le match se termine. Ça évite tous les temps d'arrêt parce que c'est vrai que les 3 dernières minutes, là, au basketball de la NBA, c'est interminable. Donc, on essaie de moderniser les règlements pour faire en sorte d'offrir un bon spectacle. Donc, défaite hier pour le match d'ouverture de l'Alliance de Montréal.
Puis au tennis?
Au tennis. Ma favorite, Leila, l'a emporté. Ça, c'est bon. Une bonne nouvelle. Félix a été expéditif hier, l'a emporté aussi. Les ténors du tennis, là, Nadal et Djokovic, sont sortis gagnants aussi du côté de Roland-Garros. Pour ce qui est de Félix et Leila, vont rejouer aujourd'hui du côté de la France. Et du côté des perdants, malheureusement, il y a Bianca qui a perdu. Tu sais, Bianca, on dirait que c'est pas encore tout à fait ça, là.
Alors, pour trouver son X, là.
Exactement. Elle n'est pas revenue au niveau où elle était. Il faut dire qu'elle affrontait le Bencic, qui est toute une joueuse de tennis. Donc, Bencic va affronter Leila lors du prochain duel. Donc, ça ne sera pas facile pour Leila Fernandez. Mais quand même, nos deux Québécois sont encore en lice et deux des quatre Canadiens qui sont encore là à Roland-Garros.
Jean-François, bonne journée.
Oui, monsieur. Ben toi aussi.
Salut.
Bye.
Écoute bien, là.
Mais voyons donc.
Je répéterai plus, là.
Mais voyons donc.
0-0-0 cents. On a un petit coussin.
Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard.
Salut, Michel.
Bonjour, Philippe-Vincent.
Bon, on revient sur la fusillade au Texas. On voit ce matin là, la Une Journal avec tous ses visages, ses enfants, les professeurs. On en connaît un petit peu plus sur le tireur. Puis on se pose, nous, comme Québécois, la question... Comment ça se fait qu'on peut acheter si facilement des armes aux États-Unis? Puis l'une des réponses, c'est l'argent.
Ben oui, c'est l'argent. Et puis c'est toujours le fameux lobby des fabricants d'armes à feu aux États-Unis qui est extrêmement puissant et puis qui se porte, on le sait bien, là, toujours à la défense du deuxième amendement aux États-Unis là, qui fonde le droit de posséder une arme. Et puis Joe Biden, précédemment... Obama, bon, ils font des efforts. Tu vois, comme Joe Biden, il tente de faire passer une loi pour resserrer le contrôle de la vente d'armes à feu. Et puis, mais il réussit pas à le faire parce qu'il fait toujours face au Congrès là, pour adopter une loi pouvant serrer le contrôle. Mais il fait toujours face à l'opposition des républicains qui se portent à la défense du fameux deuxième amendement et puis qui défendent le fameux lobby. Bon, c'est une grosse question d'argent aux États-Unis. Écoute, c'est pas compliqué, là, les ventes en 2021, l'an passé, 70 milliards. Je répète, 70 milliards d'armes à feu. C'est une industrie de 376 000 emplois.
Quand même.
Ben oui, c'est ça. Alors, ça rapporte énormément d'argent en taxes. Bon, 8 milliards en taxes d'affaires, 1 milliard de plus en taxes d'accises fédérales. En tout cas, bref, énormément d'argent. Et puis, c'est ce qui explique la force du fameux lobby pour empêcher finalement le gouvernement de resserrer le contrôle de la vente. Puis on parle de la vente au détail, hein? On parle de la vente parce que n'importe qui peut acheter une arme ou presque aux États-Unis. Alors et on voit que c'est la force de l'argent. Mais hier, moi, ce qui m'a frappé et ce que j'ai trouvé, passe-moi l'expression, écœurant, c'est de voir qu'il y avait des boursicoteurs qui trouvaient pertinent, comprends-tu, d'acheter des actions des compagnies d'armes à feu.
Mais c'est sûr.
Hier,
c'est
au lendemain, là, au lendemain de l'effroyable tuerie. Alors, ça n'a aucun maudit bon sens. Les titres des compagnies américaines d'armes à feu, là, la plupart, là, ont bouclé la séance hier, là, en hausse de 5 à 10 %. Pour que des titres une complétude d'une compagnie augmente, là. Ça, ça veut dire évidemment que la demande dépassait l'offre, là. Et puis, comprends-tu, ça veut dire que le marché du gun, là, passe-moi l'expression, se revigorait sur le dos des victimes de cette effroyable tuerie en sol américain. Ça n'a aucun maudit bon sens. Je peux pas comprendre que des gens, comprends-tu, je me suis livré à quelques petits commentaires, genre, c'est-tu des crétins cupides, des inconscients, des imbéciles, des sans-cœur, des profiteurs de la misère humaine? Ben, je pense que
c'est
un peu ça.
Toutes ces réponses, ouais, c'est ça, parce que eux ont vu une possibilité de faire de l'argent, ils se sont dit, tu sais, regarde les Américains. Les Américains font quoi? Il y a une fusillade. Au lieu de dire, il faudrait peut-être commencer à penser à avoir moins d'armes, parce que c'est pas vrai qu'une personne qui a un problème de santé mentale, qui a pas d'armes, peut faire autant de dommages qu'une personne qui a un problème de santé mentale avec une arme. Ils se disent, la meilleure solution, c'est de quoi? C'est d'avoir plus d'armes. Fait que les gens vont aller acheter plus d'armes. Fait qu'il y a du monde qui regarde ça et qui dit, ben nous, on n'est pas fous, on va faire de l'argent là-dessus. C'est brisé, là, comme système.
Ah, ça n'a aucun bon sens. Alors, écoute, l'an passé, là, il y a 5,4 millions d'acheteurs d'armes à feu qui ont acheté une arme pour la première fois de leur vie. Donc, ça veut dire que la popularité est grandissante. Mmh. Non seulement les tueries, puis là, les tueries, on le sait bien, là, se sont multipliées de ces dernières années, mais en dépit de ça, la popularité pour acheter une arme grandit. Écoute, c'est un monde, c'est comme un monde parallèle. Tu comprends-tu, on est encore dans le temps du Far West, toi.
Il y a plus d'armes à feu que d'Américains. Il y a 650 enfants à peu près qui sont morts depuis le début de l'année sous les balles.
Ben oui.
Mais il y a de l'argent. Il y a de l'argent. C'est des grosses industries. C'est des jobs. C'est du financement politique. C'est tout ça.
Mais non, mais moi, j'en ai pas contre les jobs. C'est pas ça. La question, c'est mettre en place une loi qui va resserrer le contrôle de la vente. Mmh. Il est là le problème. Comprends-tu? Qui fabrique des armes, c'est une chose, mais à qui tu les vends? Exerce un contrôle. Ils veulent pas exercer de contrôle. C'est ça qui a aucun maudit bon sens. Comprends-tu?
Non, je comprends, mais écoute, hier, on avait une dame du Texas qui, elle-même, est armée. C'est une Québécoise. Elle dit, c'est ça la solution, c'est de protéger davantage les gens avec des armes à feu. Fait que si tout le monde est armé, tu penses que tout le monde peut te tirer dessus. Comme tu dis, c'est le Far West. C'est aussi bien d'avoir une arme pas loin puis de savoir comment tirer si tu veux te protéger, là.
C'est aberrant.
Alors, on s'entend que c'est aberrant, mais c'est juste que, comme tu dis, il y a un aspect financier énorme qui force l'université, puis de l'autre côté, il y a un aspect culturel et identitaire.
C'est ça. Un lobby qui a réussi à convaincre les gens, la meilleure façon de te protéger, c'est d'avoir une arme. Tu portes une arme sur toi, fait que comme ça, si jamais tu te sens mal pris, le problème, c'est que arrivent des événements, l'autre, il pense qu'il va se faire attaquer, et puis il sort son arme puis il tire. Ben oui. Non, moi, je trouve ça fou.
Il n'y a aucune reconnaissance du problème des armes. T'sais, c'est tout le temps, ah oui, mais c'est un criminel. Ah, mais c'est un dérangé. Ah oui, ben il est fou. OK, ben arrêtez de vendre des armes à feu au monde qui sont fous, puis qui sont criminels, puis qui sont dérangés, voyons.
Oui, puis c'est pas juste des petits guns qu'on achète sur le marché, là.
Non.
Ah, moi,
je t'entends.
Ça fait peur, comprends-tu?
Ouais. Non, mais c'est une culture qu'on ne comprend pas, je pense, puis qui est épeurante, comme tu dis. Michel, bonne journée.
Salut.
Philippe-Vincent Foisy continue de donner l'heure juste sur l'actualité. Vous écoutez
Cube Radio. Cube Radio.
Benoît Dutrisac.
Demandez-nous qui gère le système.
Mario Dumont.
Le point, c'est que si les tribunaux peuvent prendre des décisions...
La rencontre.
Dans les deux cas, c'est d'une absurdité qui défie l'intelligence.
Excuse-moi, je t'arrête là.
Non, pas toi, là.
Ça ne les regarde pas.
Mais je comprends sa crainte.
C'est pour les imbéciles.
La rencontre Dutrisac-Dumont.
Mario Benoît, bonjour à vous deux.
Hello.
Bonjour.
Avez-vous passé une belle soirée hier à regarder le débat du Parti conservateur, Benoît?
Écoute, il a fallu que je soigne mes oreilles qui saignaient, que j'arrête l'hémorragie. C'était vraiment pénible, là. C'était insupportable. Puis c'était à se demander à quoi sert cette séance d'humiliation pour les trois candidats, là, Mme Lewis, Monsieur Baber, puis Hutchison, tu sais. Pourquoi ils se présentent même? T'sais, même Patrick Brown, qui prend...
Patrick Brown, tu vois qu'il parle français un peu.
On va l'avoir dans les prochaines minutes.
Il faudrait qu'il ralentisse. Tu lui diras dans l'entrevue de ralentir parce que quand il veut parler plus vite, là, on comprend plus rien. Mais les trois autres, t'as raison, Benoît. En fait, je pense qu'à plusieurs reprises, ils avaient préparé des paragraphes à l'avance basé sur le thème, je sais pas, mais le thème l'inflation, le thème la sécurité.
Là, ben, sur le chemin Roxham, là, ils ont répondu complètement à côté.
Oui, parce que Benoît, ils ont répondu. Le thème du bloc, c'était, mettons, la gestion de l'immigration. Mais l'animateur, lui, il a posé une question précise sur le chemin Roxham, mais je pense pas qu'il était capable de s'adapter puis de dire ah, OK, dans le grand champ de l'immigration, la question porte précisément là-dessus. Je pense qu'il lisait le paragraphe qu'il avait prévu pour le bloc immigration, puis il nous le lisait tel quel, même si ça répondait pas du tout à la question. C'était pathétique, là. C'était ridicule un peu. Hutchison demandait à l'animateur de pas lui donner la parole dans les échanges.
Oui, non, c'est beau ce que Rincon, oui, tout va bien, je vais bien le dire.
Il parle pas la langue.
Mais là, les deux camps Poilievre et le camp Charest là, étaient dans la salle, puis étaient crinqués. Puis, à un moment donné, ils sont pognés sur la loi et l'ordre. Là. Puis, M. Charest a donné une coupe de bons petits coups, presque en dessous de la ceinture, pendant ce débat-là, à M. Poilievre. Je pense que ça va changer le résultat final. Mais il en a placé une coupe de bons quand même.
Ah, Poilievre aussi, là, qui a quand même répondu. Je me souviens de la commission Charbonneau. Puis il l'a picossé sur Huawei. Mario, Charest en sort gagnant?
Oui. Fallait qu'il gagne, il a gagné. Le débat français, je pense, fallait qu'il gagne. J'ai pas de doute qu'il a gagné. J'ai quand même trouvé, pour Pierre Poilievre, là, du côté positif pour lui, bon, le fait d'être attaqué par tous, parce que là, il devient l'ennemi de tous, ça le place comme le clair meneur. Là. Et ça, c'est pas nécessairement mauvais là, de dire, regarde, je suis devenu la personne cible, de la référence, la cible. Mais tu sais, il était placé en même temps comme quasiment déjà le gagnant. De l'autre côté, moi, je l'ai trouvé plus nerveux. Moi, j'ai vu hier un Pierre Poilievre plus nerveux, plus insécure. Tu sais, son regard, en voulant dire là, les coups vont venir de partout, puis que dans les autres débats. Je sais pas si c'est la langue ou je sais pas si c'est... Parce qu'en même temps, il est plus sur la défensive. Tu sais, au départ de la course, il était toujours à l'attaque. Là, il est sur la défensive sur plusieurs sujets. La loi et l'ordre.
Il n'a pas reparlé de la Banque du Canada. Il n'a pas reparlé de la Banque du Canada.
Il n'a pas reparlé de Bitcoin. Donc, il y a des sujets tabous qu'il ne faut plus qu'il aborde. Il faut qu'il se dissocie des camionneurs illégaux. Il faut qu'il se dissocie de Pat King. Donc, tu sais, tu passes la soirée à t'excuser, à te dissocier, tout ça.
Est-ce qu'on a l'extrait de M. Charest qui ramène M. Poilievre au droit?
On va écouter l'échange entre M. Charest et M. Poilievre.
Avouons que c'est un peu ironique d'entendre M. Poilievre faire la morale sur la loi et l'ordre, lui qui a soutenu un blocus illégal à Ottawa alors qu'il est législateur.
Je me souviens de la commission Charbonneau. OK? Je me souviens. Et les Québécois se souviennent aussi. Les camionneurs n'ont aucune leçon à prendre de vous par rapport à loi et l'ordre.
Hey, ils ramènent quand même les camionneurs.
Coaché tout ça par Laurel et Hardy en passant. Hein, c'est baptisé. On va donner une petite toune, s'il te plaît. Non, on l'a pas.
Okay, on va la retrouver. Ah, elle est là, t'as tout. Bon, vas-y.
C'est moi, Laurel, c'est toi, Hardy, c'est toi, le gros, et moi, le petit.
C'était ça, le débat hier, là.
C'est parti de Charest Poilievre?
Non, c'était les autres, surtout, tu sais. Mais ça pas de Charest, ouais, Poilievre.
Non, mais les autres. Il y a eu plein d'affaires drôles parce que. Pour plusieurs, là, OK, c'est des anglophones, connaissent rien du Québec, comprennent rien du Québec, savent pas ce qui se passe, ni d'Adam. Et là, ben, la loi 96, ils ont vu dans le National Post, dans le Globe and Mail, on défend le français, c'est épouvantable, et tout ça. Et là, eux, François Legault, c'est un ennemi, là. Pour plusieurs, hier soir, là, François Legault, ça, c'est l'ennemi juré, l'ennemi à battre des conservateurs. C'est parce que François Legault, les amis, là, il s'est étiré le cou, là, puis il s'est même, puis il s'est fait graffiner le menton, à essayer d'appuyer Renault Tool le plus possible dans la dernière élection. Fait que si votre compréhension de l'univers politique au Québec, c'est que ça, c'est votre ennemi, ça va pas bien, là. Vous en avez beaucoup d'ennemis.
Mais ça, sur la loi 21, gros changement quand même de Pierre Poilievre, là. qui, au micro ici, à LCN, ailleurs, disait non. Même Pierre Paulus disait je vais appuyer Pierre Poilievre parce que c'est le seul à ne pas vouloir contester la loi 21. C'est tellement important pour moi. Je ne peux pas appuyer Charest là-dessus. Ça m'a tellement surpris.
Puis là, hier, là maintenant, il est attiré par Justin Trudeau. Justin Trudeau la conteste. Il serait lié à Justin Trudeau.
La question qui devait pas être posée hier, là, pour le bien du parti, c'était sur le bilinguisme. Parce que quand t'entends trois candidats sur cinq là, parler de bilinguisme, puis est-ce qu'il faut nommer des juges, des sous-ministres, des hauts fonctionnaires bilingues, pis, et là t'as ceux qui aspirent à être premier ministre, pas foutu de même comprendre la question en français. Tu sais, est-ce que la gouverneure générale...
C'est vrai que ça, c'était
une foque, hein? Voyons donc, là, c'est éviter cette question-là. Marc-Olivier Fortin, il me semble que tu lui dis là, pour le bien du parti, on va éviter la question sur le bilinguisme.
Il a quand même pu poser une question sur les armes à feu, là. Avec ce qui se passe aux États-Unis, avec ce qui se passe à Montréal, on aurait pu en parler dans le parti.
Il y a eu un sujet sur la violence pas directement les armes à feu, mais sur la violence
sécurité,
dans les rues.
Puis ça reviré sur Huawei, puis les camionneurs, puis, tu sais, je veux dire, ils sont tous revenus à leur petite chicane. Parce que j'écoutais ça hier, puis je me disais, c'est quand même fou, parce que Pierre Poilievre est menteur, Patrick Brown est menteur, Jean Charest est menteur, puis ce sont eux qui le disent entre eux. Là. Dans la même famille, là, ils se sont traités de menteurs toute la soirée. Les libéraux doivent être tellement contents, là, de tout ce qui a été dit sur cette scène-là pour faire la pub.
Ceci dit, Patrick Brown, là, il travaille quasiment en collégialité avec Jean Charest. Je veux dire, hier, on avait même l'impression que certaines des attaques, exemple sur Huawei, la contre-attaque, quand Charest est attaqué là-dessus, c'est Patrick Brown qui l'a envoyé. Donc, ces deux-là ont l'air... c'est pas ligué, là, mais pas loin.
Ouais, mais on a l'impression que Patrick Brown est envoyé dans les communautés pour aller chercher le vote qu'on appelle racisé. On veut Patrick Brown va bitcher contre la loi 21 puis contre la loi 96 puis comme quoi le Québec est tellement raciste. Et là Jean Charest, lui, il est plus haut que ça là. Il est pan-national, transnational, supranational, extranational. Puis les deux, c'est sûr qu'ils vont coucher ensemble politiquement. Le reste, ça me regarde pas, là. Mais c'est sûr que politiquement, ils vont coucher ensemble. Tu sais, on le voit venir, là. Je sais pas ce que M. Baber puis Mme Lewis apportent. Puis Hutchison, je sais pas ce qu'ils apportent au débat.
Ben, Leslyn Lewis, elle apporte quand même ça, là.
Les radicaux.
Il est dans le patate.
Bon. Ça a été ma phrase qui a marqué le débat hier. Oui. Pierre Poilievre qui est dans les patates.
Oui, c'est ça.
mais il amène cette frange-là, comme Mario dit, un peu plus radicale. Leslyn Lewis, M. Baber, ils vont chercher ça. Puis...
Mais M. Baber, là, il y a un seul sujet. Lui, il est complotiste, c'est tout. Lui a quitté Doug Ford. Mais tu sais, quand tu dis qu'un parti, ça va mal, là, un parti, c'est tout ce coup de ridicule, là. Baber a démissionné ou a été mis dehors, je pense, du caucus de Doug Ford parce qu'il était contre toutes les mesures sanitaires. Et lui, il fait campagne pour devenir chef du Parti conservateur. Comment? Il a été mis dehors du Parti conservateur ou il a démissionné du Parti conservateur local de l'Ontario. Puis là, il veut devenir chef du Parti conservateur national du Canada. Mais sur la base que Doug Ford, c'est un idiot, un épais, qui a mis tout en place une série de mesures qui privaient les gens de liberté. Mais c'est parce que, man, toi, là, tu vas avoir un quart de 1% dans une course à la chefferie. Ton premier ministre, qui a tout mal fait, là, va être réélu comme une balle. Puis c'est un conservateur. Donc, tu fais campagne sur le fait qu'un conservateur qui gère une province, c'est pourri. Alors pourquoi un conservateur? Si c'est mauvais un conservateur dans une province, pourquoi on voudrait un conservateur à Ottawa? Mais by the way, le conservateur que tu trouves pourri dans ta province la plus grosse au Canada, mais il est en train d'être réélu comme une balle parce qu'il fait ça intelligemment. Fait que retire-toi, en plus, il vient débattre en français, il comprend absolument rien du français, ouais, ni de ce qui se passe au Québec. Je veux dire, hier, lui, il était un joker dans cette affaire-là. Il dit, qu'est-ce qu'il fait là? Je veux dire, c'est
mais ça aide lutrin, pas l'image du parti. Là.
Non, un lutrin perdu, là.
Imaginez un Québécois qui regarde ça là, hier à l'ancienne puis qui se dit, ça commence, là. Faites-nous rêver, là. Quel legs vous voulez faire pour le Canada? Là? Il y a le chemin de fer, il y a le libre-échange. Là. Pierre Poilievre qui dit, moi, je veux un pays libre là, où les gens ne seront pas obligés de se faire vacciner.
C'est ça. La liberté, là, M. Poilievre, là, moi, j'aimerais ça savoir quelle liberté n'a-t-il pas?
Ben, la liberté de ramener la boussole, la liberté de ramener les oreillons. T'as plus le droit d'avoir les oreillons, ils circulent plus, parce que tout le monde est vacciné.
Ben non, c'est ça.
Il y en a une nouvelle variole là, qui circule.
Ouais. Ouais. Mais non, mais c'est parce qu'à un moment donné, t'es entends parler, là, surtout Poilievre, là, parler de la liberté... Mais Poilievre, moi j'aimerais ça savoir, là, quelle liberté n'avez-vous pas? Quelle liberté on vous a retiré? Quelle liberté il vous manque, là? Mettez ça sur la liste d'avoir un gun, comme aux États-Unis. C'est que, qu'est-ce qu'il cherche?
Là, il parle de l'inflation, la liberté de pouvoir acheter une maison, la liberté de parole.
Ouais, mais ça, c'est un détournement de liberté, là. Il y a des woke. Ouais, c'est une autre affaire, là.
Il parle des woke, là.
Et?
C'est ça.
Mais c'est ça. Ça s'arrête là. Le
non, mais on comprend que c'est ça s'adresse juste aux anti-vaccins. Cette histoire de liberté-là, c'est une invention, là.
Ah, c'est de la bullshit, là. C'est de la bullshit, puis il me fait peur, Poilievre, là. Il part sur une chire. Tu sais, tu dis, lui, il risque d'être premier ministre. Puis là, il veut renverser il veut virer la Banque du Canada. Il veut s'en prendre. Là, c'était sur Davos, là. Davos, je comprends, là, qu'on peut remettre en question ces réunions d'ultra-riches, pis de... mais si t'es premier ministre, puis ta chaise est vide, ben, les décisions vont se prendre au-dessus de ta tête. Mm. Puis si t'es contre, là, ben, présente-toi, puis prends part à la conversation.
T'as pas lu toutes les thèses qu'ils ont, là, sur Davos, sur l'Organisation mondiale de la santé, qu'il y a des plans secrets pour nous priver de nos libertés, puis dans tous les pays, nous imposer des affaires, puis que...
Ah, il me semble, que moi, si j'étais premier ministre, je voudrais participer à ces plans-là pour décider de ces plans-là.
Au moins le savoir, au moins prémunir. Si vraiment t'es contre, au moins prémunir ton pays contre...
S'il y a un complot, je veux comme être à la table pour que le complot nous favorise, nous, Canadiens, il me semble, en tout cas, je sais pas. Ouais.
Au moins le savoir.
Moi, ce que je comprends pas, c'est ce que Poilievre affiche, là, avec ses cheveux au brille crème peignés sur le côté, puis l'arrêt bien clair.
C'est le Braveheart, modèle.
Non, non, mais cette image-là, là, du petit monsieur qui s'en va travailler et son discours anti-establishment. C'est comme il représente l'establishment. Il a l'air d'un banquier, d'une banque sur le bord de la faillite. Mais il y a un propos puis un discours anti-banque, anti-establishment, anti-tout. Fait que le contraste, là, je le pogne pas. Là. Le branding du monsieur, là, je le comprends pas.
Il a l'air de banquier, mais dans le fond, c'est un colporteur de crypto-monnaie.
C'est ça. C'est ça, bon. À peu près, oui.
Bon. Changeons de sujet, mais restons quand même en politique fédérale. Le gouvernement fédéral, hier, David Lametti, quand même surprenant à Montréal, qui fait un point de presse pour annoncer que le gouvernement va intervenir contre la loi 21 sur la laïcité en Cour suprême, alors que ça n'a même pas passé la Cour d'appel. Parle de ses préoccupations pour la loi 96. Puis je me disais, c'est quand même hallucinant que le ministre de la Justice soit à Montréal au moment où Valérie Plante fait un point de presse pour demander qu'on interdise les armes de poing, puis on n'en parle pas. On parle de loi 21 alors qu'on n'est même pas encore rendu en Cour suprême. Là.
Mais bon, c'est une bonne observation. Hein? Mais je sais pas au fédéral s'il mesure l'ampleur de la crise politique. Là. Je mets le scénario parce que là, visiblement, la loi 21, ils vont participer à la contestation, donc ils veulent qu'elle soit révoquée. Ils veulent que... Bon, la loi 96, là, il y a tellement de craintes et d'inquiétudes sur à peu près tous les aspects, tous les chapitres qu'on peut penser qu'ils souhaitent en voir des sections charcutées aussi par la Cour suprême. Je veux dire, au Québec, mettons que dans la même année, tu avais une rafale de décisions de la Cour suprême qui viennent invalider la loi sur la laïcité, notre capacité de défendre le français sur différents volets. Tu vas avoir une crise politique majeure. À mon avis, tu vas revivre quelque chose de comparable à l'échec du Lac-Meach, là. En termes de sentiment de rejet des Québécois, de sentiment que si on est pour défendre la langue, la culture, notre spécificité, est-ce que ça va pouvoir se faire encore dans le Canada, une espèce de remise en question? Il devrait se poser, je comprends là, qu'à Ottawa, on se dit, oh, on a un devoir face aux minorités, mais l'idée, c'est que le Canada, c'est une fédération, puis que dans le deal de la fédération, le Québec est supposé avoir la souplesse pour défendre sa spécificité, et quand le Canada vient dire, ben non, c'est le multiculturalisme canadien, c'est un modèle unique...
Non, mais c'est un modèle qui a réussi, là. On n'est plus en 90, là. Les choses ont changé, la démographie a changé. Puis le propos de Trudeau a un appui chez ceux qui votent pour les libéraux,
même
ceux qui votent pour Québec solidaire. Il y a un fond, là, qui est plus important qu'il y a 30 ans, là. Avec le Lac-Meach. Aujourd'hui, là, si Trudeau débarque au Québec puis dit contre la loi 21, contre la loi 96, ben, c'est quoi? C'est 20 % de la population? 30? 40? Il y en a du monde, là, qui croit à ça, le multiculturalisme. Il y a, tu sais, le nombre...
Même le devoir là, qui devait défendre notre patrie, on n'est plus sûr, là.
Ben non. On n'est plus sûr. On n'est pas sûr. C'est clair, là. Le devoir n'est plus là pour défendre la patrie. Il est là pour le moi, ce que j'en lis, là, c'est souvent la thèse woke, l'analyse woke de toute l'actualité.
Le français est même plus menacé, là.
Bon, le ça français... dépend. C'est qui, de qui on parle? Il me semble, j'ai lu Robert Dutrisac cette semaine.
Oui,
pis,
non, c'est vrai.
C'est clair, là. C'est lui qui est éditorialiste quand même.
Il y a d'autres chroniqueurs qui écrivent des pages
de devoir. Ils font place à d'autres opinions.
Oui, les nouveaux écrivent aussi dans le Montreal Gazette. Les nouveaux vont têter les contrats un peu partout avec le disco woke, avec la remise en question là, de...
Écoute, non, mais de Gazette, c'est pas représentatif de tout le Québec, là, d'une majorité.
Mais d'une bonne partie. D'une bonne partie, le Québec anglo est avec la Gazette. Je suis désolé,
mais...
Le Québec
anglo, on pense pas qu'il est pour la loi 96.
Je pense pas, non. Puis une bonne partie, semble-t-il, contre la loi 21. Mais ça, on le sait pas. Moi, j'ai pas de chiffres officiels là-dessus. Mais il y a un fond de vague là sur lequel Trudeau va pouvoir surfer s'il remet en question, s'il conteste la loi 21 puis la loi 96. Je pense que c'est
mettons,
là où
mettons,
on est fragile.
La question, c'est si la Cour suprême décide d'invalider, par exemple, l'interdiction des signes religieux, là, ce qui est une possibilité. En même temps, il y a la clause dérogatoire, donc techniquement, Québec pourrait s'en sortir. Toi, Mario, tu dis que ça pourrait avoir l'effet du rejet de Lac-Meach, là, du Lac-Meach.
Ben... Si tu as une suite de décisions comme celle-là, avec des festivités au Canada anglais, puis du monde qui marche sur le drapeau du Québec en disant enfin, ils se sont fait mettre à leur place, là, puis. Ouais.
En 95.
Là, dans ce cas-ci, c'est que tu as la clause dérogatoire. Le Québec pourrait dire, ben nous, on impose la clause dérogatoire, puis on le fait pareil. Là. Je veux dire. En tout cas, mais c'est.
Mais là, on va être traîné dans la boue à travers le Canada.
C'est grave.
C'est pas grave, moi je m'en fous, là, tu manges la merde.
Mon point était surtout que le ministre Lametti a pas l'air, hier avait pas l'air trop conscient de ça, là, pas l'air trop préoccupé par cet aspect-là. Puis c'est comme si, bon...
Mais là, ça c'est les maires, là, puis je reviens avec ça, tu sais, puis t'as raison Mario, là, quand Lametti débarque à Montréal... le lendemain où on a tiré dans une vitrine de garderie, puis en plein...
Il démystifie les enjeux de société avec finesse et ingéniosité. Philippe-Vincent Foisy. Une diplomatie qui a de l'audace.
Cube Radio.
Il n'a pas peur de mettre son poing sur la table. Philippe-Vincent Foisy. Pour une information juste... et véridique.
Cube Radio.
Cube Radio. Cube Radio.
En direct à Salut Bonjour.
Ben c'est le temps de retrouver le collègue Philippe-Vincent Foisy à Cube Radio. Bonjour Philippe-Vincent.
Salut Georges, salut Alexandre.
Salut. Bon, il faut parler du débat conservateur, celui d'hier, en français.
Oui, enfin, le dernier, le seul. J'en aurais peut-être rajouté un en anglais pour le Parti conservateur, parce que ça laisse pas nécessairement sur une très bonne note l'électorat. Là. Je sais pas si vous avez regardé ça hier, peut-être d'un œil un peu attentif. La première question, c'est quel héritage vous voulez laisser au Canada? Puis la première réponse, celle de Pierre Poilievre, c'est le pays le plus libre, libre de ne pas être obligé de se faire vacciner. Là, je me dis, hey, ça commence bien ce débat-là, si on est encore en train de parler de vaccination, puis de frustration, puis le parti des frustrés de la pandémie. Il y en a beaucoup qui sont passés à autre chose. Jean Charest semblait être celui qui l'a le plus compris hier. Donc, oui, des attaques, mais aussi des propositions sur l'avenir du pays. Donc, il devait gagner. Jean Charest a gagné ce débat-là. Je ne sais pas encore si ça va être suffisant, par contre, pour la suite. Par contre, Pierre Poilievre semblait beaucoup plus ébranlé, beaucoup plus sur la défensive. On n'a pas parlé de Bitcoin, on n'a pas parlé de la Banque du Canada. A quand même retrouvé des bonnes marques et des bons points lorsqu'il a été question de la loi et l'ordre. On va écouter un échange entre Jean Charest et M. Poilievre. Il a quand même donné un bon jab à Jean Charest. Là.
J'ai déjà prononcé contre la loi 21 ici au Québec à plusieurs reprises ce soir. Et je remarque que le gouvernement fédéral a annoncé vouloir contester la loi. Je ne renverserai pas la décision du fédéral de contester la loi. Et je vais toujours être contre la loi.
Je me souviens de la commission Charbonneau. OK? Je me souviens.
Et les Québécois se souviennent aussi. Les camionneurs n'ont aucune leçon à prendre de vous par rapport à loi et l'ordre.
Quand même, hein?
On voyait leur visage, ils étaient satisfaits de leurs attaques. Et petit point de plus qu'il faut ajouter hier sur la loi 21. Pierre Poilievre, qui a changé son fusil d'épaule, c'était le seul qui ne voulait pas contester la loi 21 en Cour suprême. C'était pour ça d'ailleurs qu'un Pierre Paulus, par exemple, l'avait appuyé dans cette course-là. Finalement, il a décidé qu'il allait appuyer ce que le gouvernement Trudeau fait, c'est-à-dire contester la loi 21 en Cour suprême quand il y serait rendu.
Bien, justement, je vais faire du pouce là-dessus parce que le gouvernement Trudeau a clarifié ses intentions hier. C'est drôle, on était moins clair lors de la dernière campagne électorale.
Ouais, bien, on gardait le flou pour dire c'est pas encore rendu là, mais une fois que ça y sera rendu, on va le faire. Mais c'était pas exactement clair comme ça l'a été hier. Et ce qui est particulièrement surprenant hier, c'est que on n'était quand même pas rendu en Cour suprême. Donc, on se dit pourquoi on a choisi ce moment-là pour annoncer ça dans une mêlée de presse à Montréal avec le ministre de la Justice. C'était un peu particulier comme point de presse. Ce qu'on comprend, c'est que le message qu'on envoie à la communauté anglophone, qui est contre le projet de loi 96, c'est allez-y, contestez, parce que nous, on sera là aussi en Cour suprême lorsque ça y sera rendu. Mais je regardais ça, puis je me dis quand même, il faut que le ministre de la Justice soit à Montréal en ce moment, alors que la mairesse Valérie Plante demande au gouvernement fédéral d'interdire les armes de poing. Pas un mot là-dessus. Comme si le gouvernement fédéral n'avait pas eu priorité à la bonne place ces temps-ci. Là.
C'est incroyable, hein? Puis avec tout ce qui se passe.
Avec les fusillades, voilà. Vincent, hey, bonne journée à vous deux, salut.
Bye, Philippe.
À demain.
Bye, bonne journée.
Un mot sur les inondations.
Cube Radio. Philippe Vincent Foisy. Une nouvelle perspective de l'information.
Cube Radio.
Projet de loi 96 a été adopté. C'est maintenant la loi 96 pour la langue française. On va en parler avec le ministre responsable de la langue française, de la laïcité, Simon Jolin-Barrette, parce que il y a beaucoup de questions qui sont pas claires quand vient le temps de parler de cette nouvelle loi-là. On a entendu pas mal d'affaires. On va essayer d'avoir la vérité ce matin. Monsieur Jolin-Barrette, bonjour.
Bonjour.
J'ai plusieurs questions sur plusieurs dossiers. J'aimerais ça qu'on les clarifie, notamment sur les médecins. Les médecins et leurs patients. On entendait tantôt Patrick Brown. On entend beaucoup dans la communauté anglophone. Le Collège des médecins aussi a dit qu'il est inquiet par rapport à ça. Est-ce qu'un médecin va pouvoir parler à son patient dans une autre langue que le français?
La réponse à cette question-là, c'est oui. Il n'y a aucune ambiguïté dans le projet de loi. Et il y a beaucoup de faussetés qui sont dites présentement relativement au projet de loi 96. Rien dans le projet de loi 96 ne change l'article 15 de la loi sur la santé et les services sociaux, qui fait en sorte que...
Mais pourquoi le Collège des médecins est inquiet et pourquoi il y a eu ces préoccupations-là?
Écoutez, il n'y a aucune inquiétude. J'ai même déposé un amendement dans le projet de loi 96 pour faire référence à la prérogative de l'article 15 de la loi sur la santé et les services sociaux, alors que ça dit que les Québécois peuvent se faire servir en anglais dans le cadre de services de santé. Rien ne change, c'est le statu quo pour les services de santé en anglais. Alors, toute personne au Québec qui souhaite obtenir ses services de santé en anglais peut le faire en vertu de l'article 15 de la loi sur la santé et les services sociaux. Je ne peux pas être plus clair que ça. C'était pas inscrit au départ dans le projet de loi parce que c'était pas nécessaire de le faire parce que la loi ne s'appliquait pas à ça. Mais j'ai même déposé un amendement pour le clarifier ou pour en faire nommément une exception.
Sur l'Office québécois de la langue française qui a été, traité de Gestapo et autres, il y a un article qui retient l'attention, qui dérange, 111.3, où on dit qu'on peut, avec l'Office québécois de la langue française, utiliser tout ordinateur, matériel électronique qui se trouve sur les lieux pour fouiller à l'intérieur de ces ordinateurs-là, téléphones, appareils électroniques et autres. Est-ce que l'Office québécois de la langue française, s'il y a une plainte, peut rentrer dans un bureau comme le nôtre ici puis se mettre à fouiller sur les ordinateurs sans mandat?
Bon, premièrement, c'est pas de fouille, c'est pas de perquisition, et le libellé que vous venez de dire, c'est pas le libellé de l'article. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'OQLF n'a jamais eu de pouvoir de saisie ni de pouvoir de perquisition dans le cadre de la loi 101, et il n'en a pas non plus dans le cadre du projet de loi 96. La disposition que, à laquelle vous faisiez référence vise à actualiser la disposition parce que ce pouvoir-là, le même pouvoir, il existait à l'époque en 1967, sauf qu'il n'y avait pas d'ordinateur et puis il n'y avait pas d'informatique. Il n'y avait pas d'Internet. Alors, on est venu actualiser la disposition parce que l'OQLF a le droit, a le pouvoir de vérification de l'application de la loi. Ça, ça veut dire que c'est la même chose qu'un inspecteur de la CSST qui va vérifier les règles en matière de santé et sécurité sur un lieu de travail. C'est la même chose qu'un inspecteur de la Commission de la construction du Québec qui va vérifier les cartes de compétences.
Mais ça veut dire quoi dans le concret? Est-ce qu'on peut rentrer dans un bureau puis dire, vous parlez-vous en français, vous êtes techniquement un bureau avec un nombre X d'employés, vous devriez vous écrire en français. On peut pas faire ça?
Je vous donne un exemple. Une entreprise qui est visée par l'application de la Charte de langue française, une entreprise de 50 et plus, et qui doit mettre en place un programme de francisation, il doit avoir des communications, supposons, avec ses employés en français en vertu de la loi. L'inspecteur de l'OQLF va pouvoir demander à un employé qui utilise l'ordinateur de la compagnie, en lien avec les documents de la compagnie, de lui montrer les documents de la compagnie, de demander de faire la vérification des outils de l'entreprise. Ça, ça sera possible de faire. On est dans le cadre d'une vérification. Il n'est aucunement question d'aller dans des cellulaires personnels, d'aller dans des ordinateurs personnels. Tout est relié aux documents de la compagnie, mais désormais, le support des documents d'une compagnie ne sont plus uniquement papier, ils sont également informatiques et c'est pour ça qu'on permet à l'inspecteur de demander à un employé et c'est l'employé.
Est-ce qu'il peut refuser?
Dans le cadre du pouvoir de vérification de la loi, il peut avoir une contestation de la part de l'entreprise si jamais la vérification, elle serait abusive et ça, les compagnies pourraient s'adresser aux tribunaux pour faire contester une vérification qui serait abusive comme dans n'importe quel autre situation. Je donne l'exemple d'un inspecteur du ministère de l'Agriculture qui va vérifier la salubrité des lieux et des aliments dans un restaurant ou dans une épicerie. Toutes les lois au Québec, il y a des pouvoirs de vérification. Ce ne sont pas des pouvoirs de perquisition ni de saisie. Ce sont des pouvoirs de vérification.
Sur le 6 mois pour avoir des services en français, donc si on a un réfugié qui arrive ici qui, après 6 mois, ne maîtrise pas encore bien le français, qu'est-ce qu'on va faire à la SAQ, par exemple, avec eux? Est-ce qu'on va leur parler en français puis tant mieux qu'on prend ou il va y avoir de la flexibilité? Ou parce que de la façon dont on lit en ce moment, c'est si tu ne parles pas français après 6 mois, débrouille-toi, mon chum. Là.
Non, c'est pas ça qui est indiqué dans le projet de loi. Dans le fond...
Ben pas avec ce libellé-là.
Ce qu'il faut faire, c'est que l'État québécois, là, il y a un bilinguisme institutionnel au sein de l'État québécois. Donc, ce qui arrive, c'est que si on veut intégrer en français les personnes immigrantes, il faut faire les efforts pour vraiment travailler à les intégrer en français. Donc ça veut dire développer des outils pour les amener à choisir, à aimer le français, parce que notre plus grand défi, c'est le taux de substitution linguistique vers le français. Ça veut dire le taux de transfert linguistique. Quelle langue les personnes migrantes vont choisir? Et actuellement, on n'est pas dans un niveau suffisant. On devrait atteindre 90% pour assurer la pérennité du français. Et là, malheureusement, on est autour de 55%. Alors, il faut déployer tous les efforts pour que les personnes migrantes choisissent le français. C'est pour ça qu'on se garde une marge de manœuvre de 6 mois pour faire en sorte pour les services d'accueil. Pour
mais au-delà de 6 mois?
Tout ça. Mais actuellement, on sert déjà des gens au Québec qui ne parlent ni français ni anglais et on leur donne les services publics et ça ne changera pas. On va trouver une façon de donner les services publics. Par contre, dès le départ, on va s'adresser à eux en français, on va les accompagner pour leur donner le service public, mais ultimement, s'il y a incapacité de communiquer, il y a d'autres alternatives. On pourra avoir recours à des traducteurs, à des interprètes. Cependant, il faut cesser d'utiliser systématiquement l'anglais lorsque la personne ne parle pas le français. Il ne faut pas utiliser cette langue auxiliaire-là. On pourrait utiliser la langue maternelle de la personne. Je donne un exemple. Si la personne est d'origine hispanique et parle espagnol ou si elle parle portugais ou mandarin, on peut utiliser sa langue maternelle également, mais il faut arrêter d'avoir le réflexe comme état d'utiliser systématiquement l'anglais, parce qu'il faut mettre fin au bilinguisme institutionnel de l'État. Et ça fait part de l'exemplarité de l'État. On est le seul État en Amérique du Nord d'être officiellement francophone. Il faut préserver cette langue-là. Il faut mettre fin au bilinguisme institutionnel. Et c'est ce qu'on fait avec cette disposition.
Et une dernière sur la contestation fédérale. Là, ils vont contester la loi 21 sur la laïcité. Ils risquent de le faire aussi pour 96. Avez-vous l'impression qu'on se dirige vers un autre échec du Lac-Meach, vers une autre confrontation fédérale, provinciale, qui fait en sorte que le mouvement nationaliste pourrait en sortir revigoré, comme notre collègue Mathieu Bocoté le soutient, là?
Ben écoutez, je suis pas dans l'analyse de ces conjectures-là. Je vous dirais plutôt que c'est pas des affaires du gouvernement fédéral. Ils n'ont pas à se mêler de ces dossiers-là. Ce sont des lois québécoises, la loi 21, la loi 96. les élus à l'Assemblée nationale qui ont été élus par le peuple, par la nation, on a fait des choix. Le gouvernement fédéral devrait se mêler de ses affaires.
M. Jeanlin Barrette, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Bonne journée. Au revoir.
Pour parler à Philippe Vincent Foisy, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346, 187-CUBE-RADIO. 187-CUBE-RADIO.
Cube Radio.
Les GMF, les groupes de médecine familiale, fonctionnent-ils vraiment? Pas vraiment, si on en croit une chercheuse et un rapport de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Anne Plourde qui signe cette recherche. Madame Plourde, bonjour.
Bonjour, Monsieur Foisy.
Mais pourquoi ça fonctionne pas, les GMF?
Ben, les GMF ont été créés pour remplir trois missions bien précises, c'est-à-dire améliorer l'accès aux médecins de famille, désengorger les urgences et depuis 2015, on veut aussi qu'ils améliorent l'accès aux services psychosociaux de première ligne. Et ce qu'on constate dans notre étude, c'est que sur ces trois plans-là, les GMF n'atteignent pas du tout les objectifs pour lesquels ils ont été créés.
Ce serait quoi la solution, la contrepartie à ces groupes de médecine de famille?
Ben, en réalité, les GMF ont un des problèmes de ce modèle-là, c'est que c'est un modèle qui est encore fortement centré sur les médecins et qui est aussi un modèle à but lucratif en bonne partie. Là, faut savoir que 75% des GMF, même s'ils sont financés publiquement, ce sont des entreprises privées en fait là. Ça pose un problème selon nous. Notamment, on voit un modèle d'entreprise se développer en première ligne qui semble davantage être axé sur l'optimisation des profits que sur la réponse aux besoins des patients. Et ça, on le voit, par exemple, avec l'objectif de désengorger les urgences. Ces entreprises-là étaient supposées d'être une solution au problème d'engorgement, mais ce qui se passe, c'est que dans bien des cas, ce sont en réalité les urgences qui désengorgent les GMF, parce que ce qu'on a appris en faisant l'étude, notamment, c'est que les GMF ont la possibilité de prendre des ententes de service avec d'autres établissements. Pour un GMF sur six, là, il y a des ententes qui sont prises avec des services d'urgence d'hôpitaux pour que ce soit les services d'urgence qui donnent les heures de service des GMF les soirs et la fin de semaine. Donc, on voit difficilement comment, dans un contexte comme ça, les GMF pourraient parvenir à désengorger les urgences.
Est-ce que c'est la faute au GMS ou c'est la faute au système qui est pas capable de bien rediriger le trafic, de bien gérer ce trafic-là, le fait qu'il n'y a pas assez de médecins de famille, par exemple, que les médecins de famille travaillent quand même un petit peu moins d'heures qu'à l'époque? Est-ce que c'est la faute au modèle ou c'est la faute à ceux qui sont dans le système?
Bien, c'est certain qu'on peut pas tout mettre les problèmes du réseau actuellement sur le dos des GMF. On peut pas considérer que c'est le seul facteur en jeu. Puis il y a des choses intéressantes dans ce modèle-là, notamment l'idée de regrouper les professionnels en première ligne. Le problème, c'est que, comme je le disais, ça reste un modèle qui est fortement centré sur les médecins, justement. Ça met une grande pression sur les médecins qui deviennent la seule porte d'entrée pour avoir accès à l'ensemble des services. Et dans ce contexte-là, les GMF ne parviennent pas à répondre aux objectifs d'améliorer l'accès aux services de première ligne. Donc, il faut revoir ce modèle-là en profondeur, là, à notre avis.
Puis, justement, ce serait quoi s'il fallait le revoir? On verrait quoi ou on traduirait ça comment?
Ben, premièrement, une chose qui serait importante selon nous, ce serait de transformer les GMF en organismes à but non lucratif. À notre avis, il faut mettre fin là, au développement de cette médecine Inc. là, de première ligne. Il faudrait donc transformer les GMF en organismes à but non lucratif avec une gestion transparente, avec des conseils d'administration élus. Il faudrait aussi remettre l'équipe multidisciplinaire au cœur là, des services plutôt que seulement les médecins.
Madame Plourde de l'IRIS, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci, monsieur.
Bonne journée.
Un regard neuf sur l'actualité. Une vision nouvelle des enjeux de société.
Radio.
Cube Radio.
Vous écoutez Philippe Vincent Foisy.
Voilà. C'était surréaliste.
J'ai honte.
C'est complètement ridicule.
Des envolées, pas comme les autres. Sophie Durocher.
Salut Sophie.
Bonjour Philippe Vincent. Écoute, je veux commencer par te raconter une petite anecdote. Bon, comme toute anecdote, est-ce que c'est révélateur d'un phénomène plus grand ou c'est simplement une petite anecdote? À toi et aux auditeurs de juger, je te raconte ce qui s'est passé. J'ai un espion qui était présent hier à un barbecue de fin de session pour les élèves du Cégep Vanier, donc Cégep anglophone ici à Montréal. La députée locale était présente, la députée de cette circonscription, c'est Emmanuela Lambropoulos, donc députée libérale fédérale. Elle prend la parole, félicite les jeunes en cette journée de collation des grades, et elle prend un air très sombre en disant « Yesterday was a dark day ». Hier était une journée sombre, elle faisait donc référence à la journée de mardi. Donc, mon espion, qui était sur place, et plusieurs personnes sur place se disent, bon ben, Madame Lambropoulos, évidemment, fait référence à cette tuerie absolument insupportable qui a eu lieu aux États-Unis. 19 petits-enfants dans une école primaire assassinés au bout d'un fusil, deux enseignantes assassinées, mortes dans un bain de sang. Quand elle dit, yesterday was a dark day, c'est sûr que c'est à ça qu'elle faisait référence. Ben non, Philippe Vincent. Pourquoi mardi, c'était un « dark day » à cause de l'adoption de la loi 96? L'indécence de se présenter dans un cégep au Québec en 2022, au lendemain d'une tuerie innommable, et de dire à des étudiants de cégep « yesterday was a dark day », et elle ne fait pas référence à une tuerie, elle fait référence à l'adoption de la loi 96. Donc, je te laisse décider si tu trouves que c'est juste anecdotique ou que c'est symptomatique du manque complet de sens de valeur, de sens des priorités des gens quand ils parlent de la loi 96, que pour eux, c'est un jour plus sombre dans l'histoire de l'humanité, l'adoption d'une loi, somme toute modérée, qui vise à protéger le français au Québec, comparé à un jour sombre pour l'humanité, qui est 21 innocents qui ont été assassinés au bout d'un fusil. Madame Lambropoulos, je pense que votre choix de mots était pour le moins particulier.
Ouais, toujours dans le dossier de la langue française, il y a cette dame de Westmount qui ne regrette pas d'avoir mené une petite campagne de boycottage contre une boulangerie française, là.
Ben, écoute, la brioche dorée dans Westmount, ils ont donné le goût à beaucoup, beaucoup de gens d'aller chercher des croissants et des petits pains au chocolat au cours des derniers jours. Donc, toute cette histoire-là, c'est en fait donc une dame anglophone, mais bilingue, hein, elle est parfaitement capable de s'exprimer dans les deux langues. Elle est allée dans ce petit commerce de Westmount avec des amis unilingue anglophone, et le propriétaire de la brioche dorée, donc, a refusé de les servir en anglais. Je rappelle à tout le monde que ce soit en vertu de la loi 101 ou que ce soit en vertu de la loi 96, strictement rien n'oblige quelqu'un au Québec à s'exprimer, à servir un client en anglais. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est une province francophone. La loi, la langue officielle au Québec, c'est le français. Rien ne vous oblige à obtenir.
Puis les versions sont un peu différentes, là, parce que le boulanger dit « Mané, je me suis enfargé, j'ai commencé à parler en français, puis bon, je parle en français, puis c'était ça. » Puis elle a dit « On a refusé de nous servir en anglais, alors que lui, il dit « Non, on a parlé un peu en anglais, mais Mané, je suis revenu en français, c'est ma langue maternelle, puis c'est tout. »
Les versions sont, je l'admets, assez contradictoires entre la version du propriétaire et la version de la dame. Reste que...
Mais toi, dans les deux cas, de toute façon, il a le droit de parler en français.
Ben, de toute façon, il a tout à fait le droit de parler en français. Non seulement il a le droit, mais rien ne l'oblige à s'adresser à un client en anglais. La langue officielle au Québec, c'est le français. Un commerçant ou un vendeur, une vendeuse, peut, en effet, s'adresser en anglais ou dans toute autre langue à un client si le cœur lui en dit, mais rien dans la loi ne l'oblige ou ne l'empêche de le faire. Le problème, c'est que cette dame-là, cette dame anglophone, elle a dit, elle a écrit à ses amis en voyant un courriel en disant les effets de la loi 96 commencent à se faire sentir. Ça n'a strictement rien à voir ni de près ni de loin avec la loi 96. C'est une fabulation complète et totale. Et le problème, c'est que cette dame-là, je pense qu'elle a ouvert une boîte de Pandore. Je pense qu'elle ne pensait pas en envoyant ce courriel à ses amis que ça allait créer un mouvement social et que ça allait devenir viral et que donc il y a plein de gens qui se sont dit bon, il faut aller boycotter ce commerce-là. Sauf que ça a fait un effet inverse. Il y a plein de gens de toutes sortes de tu sais, que ce soit des francophones, des anglophones, des hispanophones, peu importe, qui se sont dit ben voyons, ce commerce-là est ciblé de façon injuste. Allons acheter nos petits croissants et nos petits pains au chocolat dans ce commerce-là. C'est juste que je trouve que c'est un exemple de l'espèce d'incompréhension mutuelle. Il y a des gens qui restent encore avec cette idée-là qu'au Québec, c'est une province bilingue et qui sont incapables d'admettre la réalité. Il y a une seule langue officielle au Québec, c'est le français. Tout ce qui vient après, et je trouve que ton entrevue avec le ministre Simon Jolin Barrette était extrêmement claire. Il est très clair quand il dit il faut mettre fin au bilinguisme institutionnel. Et c'est ça que vient faire la loi 96. Elle est imparfaite. Selon moi, elle ne va pas assez loin. Selon moi et pas mal de monde, elle ne va pas assez loin. Mais il faut mettre fin à ce bilinguisme institutionnel qui fait, par exemple, je t'avais déjà raconté cette anecdote-là. Il y a quelques semaines, avec Richard, on est allé pour faire vacciner notre fils pour sa troisième dose. Et on a été accueillis dans le centre de vaccination par un employé du gouvernement, unilingue anglais, qui nous dit « You're here for the vaccine ». Bon, je lui dis en français, il n'est pas capable de me parler en français. Comment se fait-il qu'au Québec, on accepte qu'un employé du gouvernement ou quelqu'un qui a été employé par le CIUS ne soit pas capable de s'adresser à nous dans la langue officielle de la province? Je trouve que ça, c'est le genre d'affaire qui est pas mal plus grave que quelqu'un qui est pas capable d'acheter un croissant en français. Mais il reste que c'est ça la grosse affaire dont tout le monde parle. Mais quand Simon Jolin Barrette dit il faut arrêter d'avoir ce réflexe comme gouvernement, comme institution, il faut arrêter d'avoir ce réflexe comme citoyen ou comme entreprise de dire, bon, vous parlez pas français, c'est pas grave, je vais vous parler en anglais. Non. On ne veut pas que le Québec devienne une province bilingue. Si vous voulez une province bilingue, il y a le Nouveau-Brunswick qui est là pour ça. Si vous voulez une province uniquement anglophone, allez en Ontario. Il y a un seul État, il y a une seule nation francophone dans toute l'Amérique du Nord. Dans toutes les Amériques, ça s'appelle le Québec. Est-ce qu'on peut au moins minimalement vous demander d'essuyer vos pieds sur le tapis avant de nous demander de vous parler en anglais?
Plutôt c'est juste que sur le drapeau, comme diraient certains.
Sophie, à Brockville, ben oui, à Brockville.
Bonne journée.
Merci, à demain.
Richard, bonjour.
Salut, Philippe Vincent. Je t'écoutais tantôt sur le débat et t'as allumé à la même place que moi. Je trouve que ça a commencé raide. Pierre Poilievre, quel est l'héritage que vous voulez laisser au pays? Alors, je veux faire du Canada le pays le plus libre au monde, là où les gens n'auront pas besoin de se faire vacciner. Et moi, comme toi, je dis, OK, bon.
Hey, ça part fort. Hein?
On attache notre capine avec de la broche. Comme...
Oh, man.
Moi, quand j'entends ça, là où les gens n'auront pas à se faire vacciner, moi, ce que j'entends, c'est là où les gens n'auront pas à faire preuve de solidarité. Mm. C'est comme, le tout de suite, au moins le gars, what you see is what you get. Là.
Ouais,
il a mis ses cartes sur
temps,
table.
Là-dessus, t'sais. Mais c'est ces autres aspects. Oh, là, Bitcoin, non, j'ai pas dit ça. Les convois de camions, non, j'ai pas dit ça, convoi des camions. Banque du Canada, on n'a pas parlé du tout. Avec ça, la loi 21, il a changé de position hier.
Ben oui.
Quand même hallucinant.
Alors qu'il a dit que finalement, il allait pas la contester. Là, il a dit hier qu'il allait la contester.
Richard.
Quel parti quand même, qui se cherche et tout perdu. Et là, tu avais charrié, qui dit, je veux faire un parti uni, je veux unifier le parti. Bonne chance.
Comme disait Lestin Lewis, sont un peu dans les patates. Richard, bonne émission. Merci à Rémi. Merci à Alexandre, qui était derrière la console aujourd'hui. On se retrouve demain.